Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Bienvenue sur cette libre antenne du samedi soir. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin pour partager tout ce qui fait votre vie, vos peines et vos joies. Pour participer à l'émission, c'est simple, vous prenez votre téléphone et vous faites le 39-21. À l'autre bout de la sonnerie, vous tombez sur Cindy ou sur Nicolas qui vous guideront ensuite jusqu'à moi dans ce beau studio bleu où à cette heure-ci la lumière est tamisée. 39-21 donc pour nous téléphoner. Et vous savez que vous pouvez participer par SMS, réagir ou commenter en faisant le 739-21 et en commençant votre message par le mot « nuit ». Sur cette libre antenne, nous parlons souvent de toutes ces choses qui nous affectent. Mais savez-vous qu'en réalité, il y a 6 choses qui chaque jour impactent directement notre vie ? Les pensées, bien sûr. Toute pensée émet une fréquence vers l'univers et cette fréquence retourne vers l'origine. Alors si vous avez des pensées négatives, tout cela revient vers vous. C'est pour ça qu'il est important que vous preniez soin de la qualité de vos pensées. Les gens, les personnes autour de nous influencent directement notre vie. Si vous vous entourez de personnes joyeuses, positives, déterminées, vous entrerez également dans cette vibration. Maintenant, si vous vous entourez de personnes qui se plaignent, qui sont médisantes ou pessimistes, je vous laisse imaginer ce qui se passe. La musique, elle est plus puissante qu'on ne le croit et interfère sur nos émotions. Les choses que vous regardez, films, images, expos, quand vous regardez des choses qui vous font du bien, votre cerveau libère toute une chimie positive dans votre corps. L'ambiance, si vous passez beaucoup de temps dans un environnement désorganisé et sale, ça vous affectera, alors améliorez déjà ce qui vous entoure et prenez soin de ce que vous avez. La parole, si vous parlez mal des choses ou des gens, cela vous affecte en retour, alors évitez les drames et la victimisation. Enfin, la gratitude affecte positivement notre vie et ouvre beaucoup de portes. Enfin, j'ajouterai une 8e chose qui peut impacter positivement votre vie, c'est la libre antenne bien sûr, car se confier, partager, échanger, ça aussi, ça nous fait du bien. Alors appelez-moi au 3921. C'est Julien Blanc qui réalise ce soir notre émission.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Et mon premier appel ce soir, c'est l'appel d'Amandine. Bonsoir à vous, Amandine.
Bonsoir. Bah, déjà, merci de me recontacter aussi vite parce que franchement, j'ai envoyé un mail à 10h15 et à 10h20, on me rappelait déjà.
Vous avez vu un peu l'efficacité de mon équipe.
Hein. Ah, mais c'est visible. Et du coup, voilà. Et votre introduction est top à pic parce que ce soir, on avait vraiment besoin de se confier. Donc voilà.
Alors, je vous écoute. Qu'est-ce qui vous amène, Amandine ?
Alors, question. Pour rien vous cacher, en fait, on est à deux. Ce soir, je vous appelle avec mon compagnon qui vous écoute sur son PC. On essaie de faire un bref topo en attendant de passer à l'antenne. Voilà, en fait, je suis en couple avec un homme qui s'est séparé de son ex-compagne en 2014. De cette union ont été nés en fait 2 enfants qui ont à aujourd'hui respectivement 13 ans et 10 ans. Donc, ce sont maintenant de grands enfants.
Alors, attendez, maintenant de grands enfants, mais ils avaient quel âge quand vous vous êtes connus tous les deux ?
Ils avaient 3 ans.
Ah oui.
Et 5 ans.
Donc vous les avez vraiment vus grandir ?
Ah, moi, je les ai vus grandir. Ah oui, Et je m'en rends compte parce qu'aujourd'hui, nous, on a eu 2 enfants, depuis, il y a 2 enfants qui sont nés. Et c'est mon aîné maintenant à 4 ans. Et je me rends compte qu'effectivement, j'ai connu lui, sa dernière, elle était bébé. Donc j'ai vu grandir ces 2 enfants, effectivement, tout à fait.
Et ça s'est bien passé au départ ?
Oui, alors au départ, il était convenu, on s'était mis d'accord en fait avec l'avocate de mon compagnon qu'on ferait une garde un week-end sur deux parce que sa fille en fait était vraiment petite puisqu'elle n'avait que 3 ans et donc on avait convenu une garde un week-end sur deux qui se passait très bien. Mmh. Honnêtement, voilà, on voulait savoir avec la famille justement comment ça se passait et ça se passait bien. Et du coup, sous conseil de notre avocate, elle nous a proposé de passer à la garde alternée. Chose que moi j'ai acceptée aussi parce que c'était important pour tout le monde qu'on ait plus de temps tous ensemble. Donc on a demandé la garde alternée qu'on a obtenue en 2016.
Mais est-ce que la maman était d'accord ?
Non.
Ah, ouais, ça commence à coincer là. Et autre question importante que je voulais vous poser, est-ce que votre compagnon a quitté sa femme pour vous ?
Bah non, pas du tout.
Non, donc c'est d'accord.
Non, non. sont séparés parce qu'en fait, le couple n'allait plus.
D'accord.
Ils ont décidé de se séparer en octobre 2013. Et en fait, elle a mis monsieur à la rue, entre guillemets, en mai 2014.
D'accord, je pose les bases pour comprendre les enjeux, vous comprenez ?
Et vous avez bien raison. Et c'était marqué dans mes petites notes, parce que j'écoute régulièrement votre émission qui donne pas mal de conseils et d'astuces et tout ça. Et du coup, j'ai pris des notes. Donc effectivement, ouais, il n'a pas quitté madame pour moi.
Bon.
Ça n'a rien à voir. Nous, on s'est mis ensemble quelques mois après. Et juste pour information, je tiens à préciser que madame est éducatrice spécialisée et qu'aujourd'hui, elle est devenue enseignante.
D'accord.
Je trouve que c'est important de le préciser. Vous risquez de comprendre pourquoi après.
Ok, je vous écoute.
Voilà. Donc, du coup, on s'est installé ensemble avec monsieur. On a du coup demandé la garde alternée parce que ça se passait bien avec les enfants. Et donc, madame n'était pas forcément favorable à la garde alternée, mais voilà, nous, on l'a demandé et on l'a obtenue.
Mmh.
Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que madame a fait appel de cette décision, bien sûr, vu qu'elle n'était pas d'accord.
Mmh.
Et en fait, en juillet 2017, la garde alternée a été confirmée par le juge, sauf qu'en fait, la pension alimentaire a été supprimée.
Ah oui, parce que forcément, il avait les frais étaient coupés en deux, de fait.
Voilà.
Donc j'imagine qu'elle n'a pas aimé non plus ça.
Elle a aimé encore moins.
Oui, bah oui.
Voilà. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'elle a de nouveau fait appel de cette charmante décision. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en plus de la suppression de la pension alimentaire, ce qui lui est tombé dessus, c'est qu'en janvier 2018, on lui a demandé le remboursement des pensions alimentaires qui lui avaient été versées. Parce qu'en fait, le juge s'est rendu compte que elle avait visiblement menti, certainement, sur les
revenus,
voilà, qu'elle avait déclarés. Et du coup, des pensions alimentaires lui avaient été versées à tort.
Ouh, ça n'a pas dû arranger l'ambiance, ça.
Alors, ça n'a pas... Voilà. On est bien d'accord que ça n'a pas arrangé l'ambiance. Voilà. Donc, elle a fait appel aussi de cette décision-là en disant que l'huissier avait mal lu les fiches de paye.
Ah oui, bien sûr. Il fallait qu'il apprenne à lire, donc.
Voilà, exactement.
Non, mais oui. Voilà. On n'y pense pas assez à demander aux huissiers d'apprendre à lire, hein, franchement.
Voilà, mais les huissiers sont mal formés. De toute manière, on sait très bien qu'aujourd'hui, les formations sont très mal faites, on n'apprend pas bien son métier. Enfin bref, il n'y a rien qui va. Donc du coup, ça ne l'a pas mise forcément bien... Voilà, elle n'était pas très contente. Et suite à cette décision, mon compagnon, subitement, s'est retrouvé accusé de choses, enfin d'attouchements sur ses enfants.
Le grand classique.
Voilà. Maintenant, des trucs, franchement, qu'on n'a pas compris.
Ouais. Bah, quand on n'a plus d'arguments, ça, malheureusement, souvent, ça, on en arrive là, quoi.
On en arrive là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, une procédure d'AEMO, donc on a en fait une... Enfin, l'AEMO, je pense que vous connaissez parce que je sais que régulièrement sur l'antenne, il y en a qui passent. Hein, c'est la mesure d'accompagnement midi ouvert. Donc, on a été suivi en AEMO. L'AEMO a constaté que des enfants étaient très bien accueillis d'un côté comme de l'autre.
Oui.
Donc, ils ont dit, il n'y a aucun problème. Donc, les enfants peuvent continuer à aller chez papa comme chez maman. On continue, tout va bien, voilà, on arrête les problèmes et voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de novembre 2020, toute la petite famille est repassée devant le juge des enfants, puisqu'en fait, on devait confirmer la garde alternée. Pour dire, voilà, écoutez, ça fait un an qu'on dit qu'il n'y a rien qui va, donc on va rediscuter de cette garde.
Mm-hmm.
Et donc, ils se présentent tous devant le juge. Et là, la fille de mon compagnon annonce devant le juge que papa l'a frappé mercredi après-midi dans le garage.
Quel âge elle a à ce moment-là ?
Alors, Zélie, à ce moment-là, elle a 10 ans.
À ce moment-là, elle a 10 ans, oui, bon.
Elle a 10 ans, elle est dans le bureau avec son grand frère qui en a 13.
Ouais.
Alors, son grand frère la regarde, a priori, tout bête parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe.
Mmh.
Sa petite sœur, donc, annonce ça au juge. A priori, elle se met à pleurer devant le juge. Et donc, ils restent tous les deux dans le bureau. Et le juge pour enfants retourne dans le bureau avec le papa et la maman, annonce ça aux parents. Et la maman, pareil, se met à pleurer en disant « Mais vous voyez, je vous dis qu'il n'y a rien qui va et personne ne me croit. » Sauf que du coup, mon compagnon et l'éduxpi qui étaient présents n'ont rien compris.
J'imagine qu'il a dû s'écrouler, lui.
Alors, le papa s'écroule. De toute façon, ça faisait déjà quelque temps qu'il s'écroulait parce qu'entre les accusations pour attouchement, les accusations pour si, moi, elle m'avait accusé de frapper ma fille. On commençait à être habitués à ça.
Vous êtes un couple de monstres, quoi.
Ah, mais on est des monstres. Voilà, on est des monstres, c'est bien connu. Mais bon, à un moment donné, on encaisse. Mais bon, à un moment donné, ça passe plus. Donc, c'est tout. Donc, on ressort de là, l'EDUCSPÉ qui ne comprend pas. Et donc, en fait, la juge conclut, écoutez, moi, je veux bien, mais j'ai un rapport d'une EDUCSPÉ, du MSI, qui me dit que ça fait un an que tout se passe bien. Et là, j'ai une petite fille de 10 ans qui me dit que papa l'a battu mercredi.
Et puis surtout, ça n'a pas été mentionné à l'époque, ça n'a jamais été vérifié par qui que ce soit, il n'y a pas eu de preuve non plus, donc c'est un peu facile, quoi.
Donc là, la juge, elle dit, écoutez, elle fait, moi, je suis très ennuyée, elle fait, on devait tout arrêter aujourd'hui et machin, elle fait, bah, écoutez, puisque c'est comme ça, on va repartir pour 6 mois. Donc c'est tout, on repart pour 6 mois.
Attendez, 6 mois en garde alternée?
Alors, donc on maintient la garde alternée parce que de toute façon, en fait, à aujourd'hui, il n'y a rien qui prouve que ça se passe mal. Et au final, Zélie, elle n'a pas de bleu, elle n'a rien.
Attendez, parce que cette gamine qui vient de dire ça au juge, comment elle se comporte chez vous après?
Bien. En fait, elle repart avec papa le vendredi après-midi. Du coup, ambiance pourrie parce que elle vient de dire ça à papa et elle repart avec papa, donc c'est compliqué.
C'est ce que j'allais vous dire, oui. L'ambiance entre les deux, ça ne doit pas être facile.
Hein. C'était hyper tendu. Clairement, c'était hyper tendu. Et au final, quand elle est revenue, donc on sait qu'elle en a parlé avec sa maman, a priori. La maman ne nous a absolument pas envoyé, parce que il faut savoir que le papa et la maman ne communiquent que par mail, et encore quand ils communiquent. Et donc la maman n'a absolument pas envoyé le mail pour savoir ce qui s'était passé dans le garage. Moi, ça m'a surprise.
Ça sent vraiment la manipulation.
Je suis heureuse de nous avoir envoyé ce terme-là parce qu'on en est convaincus aussi. Oui. Elle repart chez sa maman. On n'a pas de retour de mail parce que du coup, nous, on s'attendait à se faire incendier par la mère, comme quoi, oui, tu bois encore ta fille, ou avoir un dépôt de plainte.
Ça aurait été la logique, en tout cas.
Moi, je veux dire, j'apprends que ma fille se fait frapper par mon père. Déjà, elle n'y retourne pas semaine d'après.
Exactement, oui.
Et je dépose plainte, je préviens l'école, je fais un esclandre, en fait.
Ce qui me paraît, assez normal. Ouais, ouais.
Donc, la petite, elle revient. Franchement, honnêtement, elle revient. Alors moi, pour l'histoire, à ce moment-là, je suis enceinte de notre deuxième enfant. Et avec l'EDUCSPÉ, on rappelle l'EDUCSPÉ. On dit, écoutez, nous, on est très embêtés là parce que, nous, on a notre petite fille qui a bientôt 4 ans. On attend notre deuxième enfant. Ça part quand même en cacahuète parce que la petite de 10 ans, elle vient quand même d'accuser son père de l'avoir frappé dans le garage. Elle vient de m'accuser de frapper ma fille.
Et le grand de 13 ans, là, comment il se comporte?
Le grand de 13 ans, il n'a rien compris. Parce qu'il dit, ce jour-là, il fait, je m'en souviens.
Faites attention, je vous perds, Amandine, de temps en temps.
Ah, pardon, ça va?
Ah oui, c'est beaucoup mieux comme ça. Merci, oui, c'est mieux.
Le grand de 13 ans, il n'a pas compris quand elle a dit ça, parce qu'en fait, cette scène-là, il s'en souvient. Il a dit à papa, quand il en a parlé avec son père, il a dit, je me souviens, elle est allée chercher sa trottinette au garage. Et en fait, quand elle est revenue, elle avait la banane et elle a même rigolé parce qu'elle n'arrivait pas à attraper sa trotte.
Oui, donc il n'a pas confirmé du tout ce qu'avait dit sa sœur.
Ah non, pas du tout. Oui. Ah non, et lui, en fait, devant le juge, il n'a pas compris. Il n'a pas réagi parce qu'il n'a pas compris ce qui s'était passé.
Et puis, à 13 ans, c'est compliqué de prendre part dans une histoire comme ça.
Je pense. Bah oui. Honnêtement, je pense. Ouais. Alors après, j'ai du mal à me mettre à la place. Aujourd'hui, j'ai du mal à mettre à la place un enfant de 13 ans, surtout devant un juge. Bah oui. Je pense que c'est compliqué pour un enfant, quoi. Enfin, c'est vraiment pas un endroit simple en plus. Donc c'est tout. Donc ça, c'était mi-novembre. Ouais. Et donc, du coup, on en reparle avec l'EDUCSPÉ. Et là, on lui dit, écoutez, sincèrement, on pense qu'on a atteint un point de non-retour. Parce que de là, se faire accuser par les enfants, on pense que ça devient grave. Donc, on remet en question le mode de garde. On se dit, on pense que la garde alternée, en fait, c'est pas du tout une bonne idée.
Avec l'arrivée d'un bébé, vous aviez aussi bien physiquement que psychologiquement un peu autre chose à faire.
C'est ça. Et puis, moi, j'ai pas envie qu'on vienne m'accuser que je frappe mon fils ou que si ou que ça. Donc, du coup, on demande conseil à l'EDUCSPÉ. On dit, nous, du coup, on voudrait mettre fin à la garde alternée.
Et le papa est d'accord à ce moment-là?
Mais en fait, le papa, c'est même lui qui dit, écoute, qu'est-ce que t'en penses? Il fait, là, moi, j'en ai marre. Moi, ça fait 7 ans que je m'en prends plein la face parce que de toute façon, tout ce que je fais, ça ne va jamais. Mmh. En fait, mon compagnon, pour l'histoire, quasiment toutes les semaines, il se prend des mails parce que tout ce qu'il fait, ça va jamais. Madame ne le tient au courant absolument de rien de ce qui se passe dans la vie des enfants, que ce soit les rendez-vous médicaux comme les rendez-vous à l'école. Les notes, c'est une fois tous les trimestres qu'il a un mail avec les 12 bulletins et les 12 notes qu'ils ont eues. Donc, c'est très, très compliqué à ce niveau-là. Mmh. Voilà. J'ai dit à mon compagnon, la garde alternée, on l'a souhaité tous les deux parce que des enfants, ça touche, ça a besoin de leur père et de leur mère. Moi, je suis issue d'un couple de parents divorcés. Hein. Moi, étant petite, on ne pouvait pas l'habiter chez notre mère parce que c'était pas possible. Donc, j'ai vécu avec mon père. Mais là, voilà, ils ont une proximité de domicile qui était possible. Et ils sont tous les deux capables de s'occuper de leurs enfants. Donc, on voulait vraiment le tenter. Et ça se passait bien, en fait, au sein de nos domiciles. La communication, elle n'est pas bonne. Clairement, elle n'est pas bonne. Mais c'est pas de notre fait.
En tout cas, petite parenthèse, Amandine, il faut vraiment que votre couple soit solide pour supporter tout ça et surmonter tout ça. Hein.
Ah ben, en fait, je suis là depuis le départ. Hein. Là, mais on parle énormément. Là, ce soir, je lui dis, écoute, on va appeler parce que on ne sait plus. Enfin, voilà, on va vous expliquer après pourquoi on vous appelle. Mais j'ai dit, c'est plus possible parce que là, ça fait 7 ans que ça dure. Mais on se parle énormément. On est extrêmement complices là-dessus.
C'est vraiment très, 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 c'est bien, c'est chouette.
Ah ouais, mais en même temps, voilà, il faut dans un couple, il y a des très très bons moments. La preuve, on a fait 2 bébés, on se marie dans 2 mois, et puis voilà, mais il y a des très mauvais moments, et voilà, on va dire que ça fait, voilà, on partage les deux, c'est tout, c'est comme ça, et on se débrouille.
Ça s'appelle l'amour.
Donc, oui, exactement, on se soutient dans les deux côtés, quoi. Donc du coup, j'en perds mon fil.
Vous en étiez à demander que la garde alternée s'arrête?
C'est ça. Donc du coup, on a demandé conseil parce qu'on voulait pas faire de bêtises non plus. Et donc l'éducatrice en fait nous a conseillé d'arrêter. Elle a dit non, vous avez raison. Là, on atteint le point de non-retour avec madame comme avec les enfants. Donc il est préférable qu'on arrête. Donc du coup, on a dit écoutez très bien, on termine l'année civile comme on est là et on arrête au début d'année janvier. Donc on a annoncé à ces deux enfants pendant les vacances de Noël qu'à partir de la rentrée du mois de janvier, on arrêtait la garde alternée. Chose qui a été faite et qui a été mal acceptée de la part des enfants.
Ah, et de la part de leur mère?
Ah, de la part de leur mère, ça a été super bien accepté. C'est même tellement bien accepté que depuis le mois de janvier, on n'a pas de nouvelles.
Ah oui. Et les enfants ont clairement manifesté leur déception. Enfin, ça leur plaisait pas.
Alors, c'est même pas de la déception, c'est qu'ils sont en colère. Alors, pour vous donner une idée de la colère dans laquelle ils sont, c'est qu'en fait, leur papa leur a... On ne voulait pas leur gâcher leurs vacances de Noël. On les avait la semaine du Nouvel An, si je ne me trompe pas, c'est ça. Donc, on ne leur a rien dit la semaine du Nouvel An. On leur a annoncé, en fait, grosso modo, à 1 heure de leur retour chez leur maman, en leur disant, écoutez, au vu de ce qui s'est passé devant le juge et tout ça, et vu que ça se passe très mal de toute façon, vous nous avez accusé de ci, vous nous avez accusé de ça et tout ça. On a décidé, et en accord avec l'EDUCP, d'arrêter la garde alternée. Et du coup, vous viendrez à la maison un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Mm-hmm. Donc, son fils aîné, il s'est mis à pleurer. Grosse colère envers son père. Et sa fille, pas de réaction à part des pleurs. Elle a pleuré.
Ouais, parce que je crois qu'elle a été manipulée, cette gamine, en fait.
Ah mais alors clairement, en fait là on en arrive à ce point-là en fait au mois de janvier, c'est qu'on pense qu'ils ont été manipulés elle a raconté ça au juge et on sait pourquoi elle l'a raconté, on a su après pourquoi elle l'avait raconté.
Parce que sa mère lui a demandé, j'imagine, non?
En fait elle a compris que le rapport pour sa maman n'était pas bon.
Ouais.
Et du coup elle a voulu protéger sa maman. C'est ce qu'elle nous a dit après. Sauf qu'elle n'a pas pris la mesure de ses actes, en fait.
Oui.
Parce que comme on a dit, nous, le problème, c'est que là, ça faisait 7 ans qu'on accumulait. Et il y a un moment donné, s'entendre dire qu'on bat sa fille Thomas bat sa fille dans le garage, c'est pas possible, quoi, parce que ça peut aller très loin par la suite. Donc c'est pas possible.
Il était temps que ça s'arrête. Mais la pauvre, elle est dans ce qu'on appelle un conflit de fidélité, quoi.
C'est-à-dire ?
Elle
est sous-entendue par un conflit de fidélité.
Entre son père et sa mère. Elle a voulu protéger sa mère et en même temps, elle n'a pas envie d'accuser son père. On sent bien qu'elle est mal à l'aise avec ça.
Ah bah, je pense qu'en fait, elle ne sait plus qui elle doit...
Voilà, c'est ça.
Elle est bien avec les deux, mais elle ne sait plus qui elle doit protéger, avec qui elle doit être bien. Elle ne veut pas faire de mal ni à l'un ni à l'autre. Mais en même temps, je pense que c'est compliqué. Quoi. Mmh. Donc ça, c'était en janvier, donc on leur a annoncé ça. Ils ne sont pas venus pendant un mois et demi. Ils ont refusé de venir à la maison. Mmh. Donc Maxence envoyant des SMS à son père, de façon je suis en colère, tu penses qu'à ta gueule. T'as pris cette décision en pensant qu'à toi et tout ça, donc du coup...
Ils ont dû se sentir très rejetés, forcément.
Alors, rejetés, oui, c'est ce qu'on s'est dit, parce que... peut-être rejetés. Comme j'ai dit à Thomas, tu as continué ta vie. Alors, il faut savoir que, bon, nous, on a refait notre vie, et ça fait 7 ans qu'on est ensemble, et du coup, on a eu 2 enfants en commun. Leur mère a refait sa vie aussi, là, ça fait 4 ans qu'elle est avec un compagnon. Elle a refait sa vie.
Et comment ça se passe alors entre cet homme et les enfants ?
Eh bien écoutez, c'est la question qu'on se pose.
Vous ne savez pas ?
On n'en sait trop rien parce que déjà, ils n'en parlent pas. Alors nous, je suis une filouce, moi mes parents sont divorcés et je suis inscrite, et j'aime bien tout ce qui est psychologie, donc des fois j'aime bien poser des questions un petit peu malignes pour savoir un peu ce qu'ils font chez maman et avec leur beau-père et tout ça. Mais ils n'en parlent pas. Donc, on ne sait pas trop ce qu'ils font de l'autre côté. On n'arrive pas trop à savoir ce qu'ils font non plus avec...
Ne bougez pas trop, s'il vous plaît, Amandine, parce que je perds un mot sur deux, là.
Ah, pardon.
Merci.
On n'arrive pas trop à savoir ce qu'ils font, du coup, avec leur beau-père. Quand on aura annoncé du coup l'arrêt de la garde alternée, on a réussi à les revoir mi-février parce que c'était l'anniversaire de leur père, donc ils sont dû passer une journée à la maison et ça s'est bien passé.
Bon.
Honnêtement, ça s'est bien passé. Son fils est revenu passer une semaine pendant les vacances de février et ça s'est bien passé. Sa fille est revenue une journée au mois d'avril parce que c'était son anniversaire et ça s'est bien passé. En fait, les petites journées où ils sont venus, ça s'est plutôt bien passé.
Ce qui est plutôt bon signe.
C'était plutôt bon signe et ça s'est plutôt bien passé comme ça au fur et à mesure. Là, on a fait des vacances d'été, donc ils sont revenus 15 jours à chaque fois. Ça, c'est relativement bien passé. Et donc là, on a eu la rentrée scolaire. Et il devait arriver hier soir, mon compagnon, du coup, devait aller les chercher hier soir chez leur mère à 18h. Et on a reçu un texto jeudi soir. « Coucou papa, on ne vient pas jeudi. On doit faire du tri avec maman pour vendre des affaires et avoir des sous pour m'acheter un nouveau vélo.
» Trois petits points, non ?
Je crois qu'il n'y avait même pas trois petits points. Maman a des problèmes d'argent.
Oui, c'est ça.
On veut l'aider. Alors, non. En fait, elle a des problèmes d'argent. Parce que du coup, elle nous doit toujours les pensions alimentaires versées à tort.
Ah, elle ne les a pas remboursées encore.
Elle ne les a pas remboursées. Parce qu'en fait, elle est contre cette procédure. Parce qu'elle estime toujours que c'est l'huissier qui s'est trompé.
Donc, elle est toujours en appel là-dessus.
Donc, en fait, maintenant, l'huissier, il ponctionne l'argent directement sur son compte.
Oui, donc elle n'a pas obtenu gain de cause du tout dans cet appel.
Exactement.
Ok.
Sauf que ça, jusqu'à présent, je pense que ses enfants ne le savaient pas. Et que là, elle vient de leur dire. Donc du coup, là, on a reçu un message de la part de ses enfants. Et clairement, c'était « Oui, tu as lancé une procédure contre maman. »
C'est ta faute. Oui, je vois le genre.
Voilà, exactement. Nous, on est une famille. Donc, on aide maman. Patati, patalère, machin, patacoufin.
Oui, ils sont les pauvres, ils sont embringués dans une histoire qui ne devrait pas gérer eux, quoi. C'est des conflits de grands, ça, d'adultes.
Exactement. Et donc, on ne sait plus vers quel intermédiaire est-ce qu'il faut se tourner. Parce que de toute façon, clairement, alors, on a envoyé un texto à leur mère en disant, écoute, parce qu'en fait, au départ, j'ai dit, c'est super, ils vont faire un braquage avec leur mère dimanche.
J'ai pas compris, ils vont faire quoi ?
J'ai dit, en fait, quand on a reçu le texto jeudi, j'ai dit à mon compagnon, c'est super, ils vont aller faire une braderie dimanche avec
braderie,
leur maman.
D'accord, oui.
C'est une excellente idée. J'ai dit à ce moment-là, arrange-toi avec eux, tu leur dis, on coupe la poire en deux, ils passent une journée avec maman et tant pis, c'est pas grave. Et en fait, on découvre que bah non, pas du tout. Ils sont en colère contre papa parce que papa embête maman et tout le tralala. Et j'ai dit à Thomas, je fais, mais là, c'est à leur mère de les raisonner et qu'il y a un droit de visite.
Mais elle n'est pas dans ce rôle-là, vous l'avez bien compris.
Elle n'est pas dans
l'apaisement du tout. Hein.
Bah oui, voilà, mais moi, c'est ça qui commence à me déranger énormément, en fait.
Mais et vos enfants, à vous, comment est-ce qu'ils vivent toute cette ambiance qui m'a l'air quand même un peu lourde?
Alors, jusqu'à maintenant, vu que c'était une semaine sur deux, bah voilà, moi, ma fille savait que bah, le vendredi soir, il y avait le grand frère et la grande sœur qui débarquaient à la maison pour toute la semaine. Donc, elle savait que sa grande sœur dormait au-dessus de son lit. Elle était toute contente. Quand on a changé on lui a pas dit qu'il y avait un changement du mode de garde du tout. Mais elle n'en a pas parlé plus que ça. Franchement, et même aujourd'hui, elle le percute pas. Et là, en fait, ce qui s'était passé, c'est que moi, mardi, je devais dire, bah, tu sais, ta sœur, elle arrive vendredi, tout ça, machin. Et du coup, elle était toute contente d'aller la chercher chez leur maman. Et quand on a eu le message, du coup, j'ai plus rien dit. Et elle m'en a pas reparlé.
Alors aujourd'hui, vous en êtes où, Amandine?
C'est-à-dire?
Dans la situation, où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous voulez?
C'est-à-dire qu'en fait, nous, à aujourd'hui, on était en colère jeudi soir parce que, en fait, on est en colère contre leur mère. Mais comme vous dites, de toute façon, elle n'est pas du tout, elle va pas apaiser les choses.
Parce qu'elle
est dans une procédure qui n'est pas pour elle. Donc, nous, ça nous ennuie beaucoup, mais tant pis. D'un côté, on sait que c'est pas la faute des gamins.
Évidemment.
Qui sont manipulés. Mais du coup, comment on peut faire quoi? Parce que là, clairement, dans quel état on risque de les récupérer dans 15 jours? Et faut-il les récupérer dans 15 jours? Parce que là, il risque quand même d'y avoir une tension, parce qu'on ne sait pas ce qui aurait été raconté là-bas. Est-ce qu'il faut leur expliquer aussi les choses, notre version, entre guillemets?
Oui. Est-ce que vous me posez vraiment la question, c'est ça?
Ouais, bah en fait alors, oui, parce que du coup nous on leur je veux bien leur parler ou leur expliquer les choses. Nous on a dit s'il faut être honnête avec eux, on va leur dire les choses et puis en fait on ne sait plus comment il faut faire quoi.
Mais je comprends parce que vous êtes un peu au cœur du tourbillon. Je pense que ne pas les recevoir est une mauvaise idée parce que ce sont des enfants qui se sont sentis souvent rejetés d'un côté ou de l'autre, qui ont un peu servi de punching ball, qui sont très probablement manipulés par leur maman.
Ah bah clairement, ouais.
Donc les rejeter, même si l'ambiance est difficile quand ils sont là, je crois que c'est pas une bonne idée. Parce que même si les ados jouent un peu les caïds, ils sont fragiles.
Ouais.
Leur parler me paraît une bonne idée, mais en aucun cas, c'est ça qui va être difficile, je pense, pour vous, en aucun cas charger leur mère. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire expliquer les choses sans...
En fait, on ne lui en veut même pas à leur mère. On veut juste expliquer que voilà, il y a une procédure qui est en cours. Parce que l'huissier a fait un calcul qui est celui-là.
Non, j'ai bien compris. Simplement, la seule chose que j'entends, et je la comprends, c'est la colère que vous avez contre cette femme qui n'a rien arrangé. Et ce qu'il faudrait, si vous en êtes capables tous les deux, c'est de leur parler en étant factuel, sans mettre d'émotionnel dedans. Comme vous me dites là, en disant, voilà, on voudrait vous expliquer pourquoi ça se passe mal et pourquoi ça fonctionne comme ça, mais sans y mettre la moindre émotion.
Oui.
Parce que si vous vous en prenez à leur mère, ça va forcément dégénérer.
D'accord, donc je ne peux pas la tuer tout de suite. Hein. Okay. Pas de problème, je vais prendre sur moi.
Pour résumer, on va dire que voilà, la Kalachnikov, pour l'instant, vous la laissez ranger.
J'oublie un petit peu, ok.
C'est mieux comme ça. Mais par contre, gardez gardez tous les deux votre rôle d'adulte. N'oubliez pas que même si ce sont des ados, ce sont quand même encore des enfants.
Oui.
Et qu'ils sont, même s'ils jouent un peu les petits caïds devant vous, ou les gros bras pour défendre leur maman, ils ont aussi besoin de leur papa et de vous, et que les choses soient expliquées. Quelle que soit la manière dont ils réagissent, ils ont besoin que les choses soient expliquées. Mais vraiment avec des pincettes, c'est-à-dire que vous savez très bien que vous marchez sur des œufs.
Ah oui, non, mais clairement, ça, de toute manière, dès qu'on aborde le sujet de la séparation, c'est délicat et on fait attention à ce qu'on dit.
Donc, c'est-à-dire, ne vous mettez pas à son niveau à elle, parce que je pense qu'elle ne se gêne pas pour dire du mal.
Ah oui, non, mais ça par contre, on en est quasiment sûr.
Et l'idée, c'est de ne pas descendre là, à ce niveau-là, de cette énergie-là qui n'est pas bonne pour les enfants. Restez qui vous êtes, ne vous mettez pas à son niveau à elle. Soyez prudents sur ce que vous dites, mais dites les choses, vraiment. Mettez des mots sur tout ça, c'est important pour eux.
Ok.
Hein, c'est une façon de contrebalancer les choses intelligemment.
Et du coup, là, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure à mon compagnon, parce que est-ce que ce serait bien aussi de leur envoyer un texto quand même, parce que du coup, on a des contacts, ils ont chacun un téléphone portable maintenant, de rester en contact, parce que là, normalement, donc ils viennent ce week-end, mais ils sont pas là, donc c'est-à-dire qu'on ne les revoit que dans deux semaines, leur envoyer un texto la semaine prochaine, éventuellement la semaine d'après, pour reprendre des nouvelles et tout ça, c'est une bonne idée, on laisse tomber pendant deux semaines et on leur dit, voilà. Simplement, milieu de semaine prochaine, je viens de chercher vendredi, passe une bonne semaine, et puis voilà.
Moi, je ferai moitié-moitié, c'est-à-dire je laisserai passer une semaine pour que, que la tension baisse un petit peu.
Et qu'elle baisse,
Et j'enverrai un petit mot gentil en disant on a hâte de vous retrouver, on vous prend à telle heure, à tel endroit, tel jour, quoi, voilà.
Ok.
Sobre, mais gentil.
Ouais.
Et puis pas tout de suite.
Ok.
C'est vrai que c'est...
Pour faire un peu la pression...
C'est vrai que tout ça sont des histoires d'adultes dans lesquelles ils sont impliqués malgré eux. Donc il faut garder un lien, mais éviter au maximum de les impliquer dans ce qui est émotionnel là-dedans, vous voyez.
Ah ouais, non, mais clairement, ça aussi.
Mais leur expliquer les choses et la situation, oui, ils sont grands et je pense que c'est important qu'ils aient un autre écho de l'histoire. Là où ça va être délicat pour vous, c'est de ne pas charger.
Oui, et c'est pour ça qu'on voudrait qu'ils aient notre version, en fait.
Mais votre version, mais sans charger leur mère, évidemment.
Oui, non, mais expliquer qu'il y a eu une procédure, c'est juste que c'est la loi, et puis qu'il y a eu de l'argent versé à tort, parce que des montants n'étaient pas des bons.
J'ai bien compris, mais là où c'est difficile, c'est comme vous dites vous-même, je la tue pas tout de suite, c'est qu'on sent bien qu'il y a cette colère encore à l'intérieur, et cette colère-là, vous ne pouvez pas l'exprimer devant eux.
C'est même pas de la colère, c'est que... quand je sais, en fait, tout à l'heure, je vous ai dit, voilà, elle est éducatrice spécialisée et aujourd'hui,
enseignante. Oui, je comprends. Oui.
Voir l'attitude et le comportement qu'elle peut avoir à aujourd'hui auprès de ses enfants et envers nous, moi, c'est quelque chose qui
est... Quand on est émotionnellement impliqué, c'est plus la même chose que dans son travail.
Voilà. Et là, alors là, quand je vois ce qu'elle fait, je comprends plus, quoi.
Donc justement, ne descendez pas à son niveau à elle, restez comme vous êtes. Sincère, honnête, expliquez-leur les choses simplement avec les choses factuellement. Vous voyez, ne mettez pas d'émotions là-dedans. Les émotions, c'est aux grands, les gérer aux adultes, c'est pas à eux.
Ok. Par contre, du coup, tout à l'heure, vous me parliez de mes enfants.
Oui.
Et du coup, ça m'interpelle. Parce que j'ai quand même des enfants aussi. Il faut que je m'inquiète ou pas pour mes enfants?
Est-ce qu'ils vont bien, vos enfants?
Ah bah, moi, a priori, ma fille, elle pète le feu, elle chante, elle danse, elle mange.
Alors vous savez,
elle fait du vélo.
Il y a une chose très simple dans la vie qui consiste à dire que tant qu'il n'y a pas de problème, alors il n'y a pas de problème.
Oui, voilà. En fait, on ne lui en parle pas et on l'a même dit, là, du coup, on n'en parle plus. Et voilà, juste quand on sait qu'ils viennent, et ben, on le dit. Et elle est super contente quand ils sont là.
Très bien.
Et quand ils devaient venir... et qu'on apprend à la dernière minute qu'ils ne peuvent pas venir, et ben on dit, ben écoute, non, au final, ils sont partis faire des courses avec leur mère, et au final, bon, en fait, ça passe au-dessus. Et alors, le petit dernier qui a 4 mois, autant vous dire que de toute façon, pour l'instant, trois fois. Donc, lui, en fait, on n'a pas le même.
Je vous perds, hein, Amandine.
Ah, pardon.
Voilà.
Mais je vais rester collée à mon canapé. Oui, non, le petit dernier, c'est vrai que par contre, lui, du coup, on n'en parle pas du tout, en fait.
Bah, il est petit pour l'instant.
Ouais, il a 4 mois, donc bon, lui, on verra quand il sera plus grand.
Et mais par contre, si votre fille plus tard vous dit, vous pose des questions, il est important qu'elle sache que vous êtes ouverte au dialogue et que vous acceptez de parler de ce qui s'est passé.
Ah oui, mais ça par contre, oui, voilà, si elle a des questions, vu que, de toute façon, j'ai mis mon grain de sel dès le départ, je suis au courant de tout, donc oui, et de toute façon, on lui expliquera les choses. Après, on lui a jamais, c'est pas qu'on lui a jamais rien caché, mais voilà, quand son frère et sa sœur sont là, elle le sait. Quand ils repartent, elle le sait aussi. Voilà,
elle est au courant. Le reste, ça ne la concerne pas tellement, tous ces conflits de grands. Hein.
Oui, non, mais voilà, mais elle est au courant quand son frère et sa sœur sont là.
Oui, bien sûr.
Et voilà, mais c'est important qu'elle le sache. Voilà. Elle sait quand ils doivent arriver, quand ils doivent repartir, c'est tout.
Bon.
Et c'est plus important pour elle, je pense.
Autant qu'ils vont bien, écoutez, tout va bien, c'est l'essentiel. Je pense que vous maniez tous les deux votre barque avec... avec dextérité, on va dire.
Ouais, je pense qu'on s'en sort bien. Une fille divorcée avec un gars, on y arrive bien, on s'en sort bien. Donc voilà. Bon, bah, du coup,
donc
on
ça,
les accueille.
Donc ça prouve qu'il y a beaucoup d'amour entre vous et ça, c'est l'essentiel.
Oui, oui, non, tout à fait. Il y a pas, ça va. On est solide et j'avoue que l'émission de radio aussi apporte de bons conseils à ce niveau-là. Donc c'est fort pratique. Il n'y a pas de problème.
C'est gentil.
Bah, merci beaucoup en tout cas pour votre conseil et pour vos échos et pour votre écoute.
Merci à vous, Amandine. Je vous embrasse.
Bonne soirée, bon courage.
Merci,
au revoir.
Merci, au revoir.
Laissez votre message à Sabine Marin au 739 21. 75 centimes plus coût du SMS.
Et c'est maintenant Sonia que j'accueille sur notre libre antenne. Bonsoir à vous, Sonia.
Bonsoir, Sabine. Je suis contente de pouvoir vous parler parce que ce n'est pas évident de vous avoir.
Ben, je suis ravie de vous accueillir.
Merci beaucoup. Voilà, j'en ai un peu marre de tout, j'en ai marre de ma vie. Je traverse vraiment une véritable crise en ce moment. Je veux pas être égocentrique, mais je traverse une drôle de crise. Ouais. J'ai fait mes 50 ans au mois de mars et je suis porteuse d'une maladie qui est la schizophrénie. Voilà.
D'accord.
Donc, je suis soignée, je suis stabilisée, je vois des psychologues, tout ça.
Depuis combien de temps vous avez été diagnostiquée ?
25 ans.
25 ans, d'accord.
Ça fait 25 ans que je suis diagnostiquée, que je suis soignée et que je suis stabilisée.
D'accord. Bon.
Mais le CMP où je vais ne m'offre pas la possibilité de voir une psychologue. Ils me disent que les psychologues ils sont en liste d'attente et que je peux pas en voir pour l'instant. Je discute avec une infirmière. Alors c'est pas pareil parce qu'avant j'ai été suivie par une psychologue pendant un certain temps quoi en fait. Mm-hmm. Bon bref, enfin pour en revenir au cœur du sujet, Sabine. C'est pour vous dire que, voilà, j'ai pas construit grand-chose dans ma vie. Je suis détentrice d'un appartement, d'un chat.
C'est marrant d'être détentrice tout. Comme terme, vous êtes propriétaire, c'est ça ?
Non, pas propriétaire, locataire, mais je veux dire, je suis détentrice. J'ai la chance de vivre dans un appartement avec un chat. Mm-hmm. Bon, je suis...
Non, pardon, vous l'avez très mal dit. Vous avez la chance de vivre chez votre chat, vous voulez dire ?
Oui, j'ai la chance de vivre chez mon chat.
On est bien d'accord.
Oui, voilà, c'est ça. J'ai la chance que mon chat m'offre un 48 mètres carrés.
C'est ça.
C'est déjà pas mal. Oui, et en fait, voilà, je m'occupe de maman qui a 88 ans. Ça va faire un an et demi que je lui fais ses courses. Parce qu'elle ne peut plus marcher, elle a 88 ans et étant petite, je suis en train de lui donner toute ma vitalité, mais je suis ses jambes, je suis en train de lui donner, de lui faire ses courses.
Mais attention Sonia,
si
vous lui donnez toute votre vitalité, vous tenez comment debout vous ?
Oui, mais c'est ça, oui. on va en venir. alors que elle ne m'a jamais dit je t'aime, elle ne m'a jamais comprise, elle m'a écoutée mais mal.
C'est-à-dire c'était
maman comment ? Elle m'a pas fait de compliments,
c'est mal passé quoi. C'est le socle de tout, donc pas bref du tout. Quel genre de maman c'était quand vous étiez petite ?
Oh, quand j'étais petite, j'avais un père alcoolique qui me battait, qui me maltraitait, qui m'a pas donné d'éducation.
Et une maman qui en avait peur ?
Et une maman qui en avait peur, qui était soumise.
Ah voilà, oui. Ouais.
Donc moi, à 50 ans, je suis peureuse et soumise. Un peu. Bon. À part ça, j'ai mon ex, j'arrive pas à le quitter parce que c'est la seule personne que je connais. Je vis dans une grande ville, mais j'ai pas d'amis. J'ai pas de travail parce que je suis travailleur handicapé et que j'ai beaucoup de mal à trouver du travail. Et j'ai du mal à donner du sens à ma vie parce que je vis constamment seule, avec entourée de gens médicaux et je vois que ça quoi. Et puis, quand on discute, quand je suis dans une grande ville, on est un peu anonyme, mais quand je discute avec une personne, je suis tellement hypersensible que je suis un peu sur le mode parano, quoi. J'ai toujours peur qu'on fasse du mal. J'ai toujours peur qu'on me dise des paroles désobligeantes. Enfin, je suis pas bien, quoi. Je suis pas bien. J'en ai gros sur la patate.
Ben oui, j'entends ça. J'entends ça. Alors, si on rembobine le film un petit peu, vous avez été une petite fille, donc éduquée dans des conditions difficiles avec une maman.
J'ai pas été éduquée du tout.
Vous avez été quoi, dressée?
J'ai été dressée. Voilà, c'est ça.
Oui. C'est dur hein, comme mot, et les mots ont un sens.
Oui, c'est très dur, oui.
Et donc cette maman soumise...
Et j'ai poussé toute seule.
Elle vous a jamais protégée?
Elle m'a jamais protégée.
Vous êtes partie à quel âge de ce foyer, de cette maison?
On est partie avec ma mère et mes frères et ma sœur. On est partie, j'avais 13 ans. J'avais 13 ans, donc c'était en 1983, il me semble.
Ah, donc votre mère a quand même eu le courage un jour de
quitter cet homme. Oui, ma mère a quand même eu le courage un jour de... Avec 6 enfants, il y en avait qui étaient déjà partis.
Oui.
Il lui en restait 3 à la maison. Et les autres frères étaient partis. Mais elle a quand même eu le courage de partir quand moi, j'avais 13 ans, en 1984-85.
Vous étiez la numéro combien dans la fratrie?
La dernière.
La petite dernière.
Et comme je suis empathique, j'ai ressenti toutes les émotions, je suis malade de mes émotions.
Mais vous êtes ascendant éponge?
Je suis une vraie empathe.
Ouais.
Une vraie empathe.
Ouais. Mais vous, après, à quel âge vous avez pris votre envol?
J'ai pris mon envol à 16 ans.
Et pour faire quoi de votre vie alors?
Ben, pour faire un CAP coiffure.
Ouais.
Et je me suis retrouvée dans un appartement à l'âge de 17 ans. Mon premier appartement, je l'ai eu à l'âge de 17 ans pour faire une école de coiffure à 80 km de chez ma mère.
Et au moins, vous étiez libre et tranquille?
Oui, mais j'ai fait que des bêtises.
Ah, quel genre de bêtises?
Ben, je me suis droguée. J'ai été abusée par des garçons.
Vous n'aviez pas de repère, on vous en avait jamais donné, quoi.
Non, j'avais aucun repère.
Pas de repère, pas de limite, évidemment.
Pas de repère, pas de limite, et je faisais n'importe quoi. J'allais même plus à mes cours.
C'était des cours de coiffure.
De coiffure, de coiffure. J'allais même plus à mes cours de coiffure. Et pendant l'adolescence, j'ai, comment dire, tout en ayant des petits copains et tout ça. J'ai un peu erré dans la grande ville où je suis actuellement, quoi. Enfin, erré, à la rue, mais
dans votre vie.
J'ai fait n'importe quoi, quoi. J'ai fait des bêtises, j'ai fait n'importe quoi.
Et est-ce qu'un jour ça s'est arrêté, ça? Est-ce qu'un jour il y a eu comme un déclic?
Ben, jusqu'à temps qu'on me diagnostique schizophrène, hein. Ça a tout remis en cause dans ma vie.
Mais pourquoi? Parce que quand vous dites j'ai fait n'importe quoi, vous aviez déjà des symptômes un peu curieux ou c'était juste une crise d'ado?
Ma crise d'ado, je l'ai fait à 25 ans, je crois, ma crise d'ado. Je l'ai fait à 25 ans. Mais j'ai fait n'importe quoi parce que j'avais aucun repère, aucune éducation, quoi, en fait. J'ai fait n'importe quoi. J'ai été avec des gens négatifs, des choses négatives.
Sale période, quoi.
Une période, déjà que l'enfance était compliquée, l'adolescence a été d'autant plus compliquée qu'il fallait que je me redresse seul, que j'aille travailler pour gagner ma croûte, que je me redresse seul et que je me trouve un appartement dans la grande ville où je suis, quoi.
Sonia, je vous propose qu'on fasse une pause le temps des infos.
Oui.
Et je vous retrouve tout de suite après, merci beaucoup.
Oui,
à tout de suite, ne bougez pas. Vous écoutez Europe 1, il est minuit, c'est donc l'heure des infos avec Sophie Cousseau.
Grave crise diplomatique entre la France, les États-Unis et l'Australie. Les données de près d'1,5 million de Français piratés après des tests PCR et puis la victoire de Bordeaux à Saint-Étienne en football.
Europe 1.
Bonsoir à tous. Crise diplomatique après que l'Australie a torpillé le méga contrat d'achat de sous-marins français. Paris a rappelé hier soir ses ambassadeurs à Washington et Canberra. Ce soir, invité du journal de 20h sur France 2, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, n'a pas mâché ses mots.
Il y a eu mensonge, il y a eu duplicité, il y a eu rupture majeure de confiance, il y a eu mépris. Donc ça ne va pas entre nous, ça ne va pas du tout. Ça veut dire qu'il y a crise. Et à ce moment-là, Il y a d'abord un aspect symbolique, c'est qu'on rappelle nos ambassadeurs pour essayer de comprendre, mais pour en même temps montrer à nos pays anciennement partenaires que nous avons un très fort mécontentement, qu'il y a vraiment une crise grave entre nous. Et puis c'est aussi, lorsqu'ils vont venir, le moyen de réévaluer notre position pour défendre nos intérêts à la fois en Australie et aux États-Unis.
Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, au journal de 20h de France 2. Autre crise diplomatique en ce moment entre le Maroc et l'Algérie. Malgré tout, le roi du Maroc, Mohamed VI, a adressé ce soir un message de condoléances et de compassion au président algérien Abdelmajid Tebboune à la suite du décès d'Abdelaziz Bouteflika hier à l'âge de 84 ans. 42 000 chasseurs dans les rues de France aujourd'hui pour protester contre l'interdiction des chasses traditionnelles d'oiseaux. Des techniques qui ont été jugées illégales par le Conseil d'État le mois dernier. Une mobilisation pour défendre leurs intérêts à 7 mois de la présidentielle. Autre manifestation, 10e samedi consécutif de protestation contre le pass sanitaire. Une participation en baisse, 80 000 personnes contre 121 000 la semaine dernière. Mobilisation alors que le cap des 50 millions de Français ayant reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19 a été franchie. En parallèle, on a appris cette semaine que les données d'environ 1,4 million de Français qui ont effectué un test PCR l'année dernière ont été piratées. La PHP a porté plainte. Paul-Olivier Gibert, président de l'Association des correspondants de données personnelles, se veut toutefois rassurant.
C'est un commencement de début d'usurpation d'identité. Les données perdues sont des données qui sont finalement assez limité, plutôt que de s'inquiéter, être vigilant sur effectivement un certain nombre de mails ou de SMS que l'on peut recevoir. Ces numéros de téléphone peuvent être réutilisés pour des tentatives d'escroquerie. À partir du moment où vous avez des informations de ce type-là qui circulent, par exemple, ça peut être chaîné avec des informations de type bancaire. Si des coordonnées bancaires ont été volées, le numéro de téléphone permet de faire des liaisons entre, par exemple, le numéro de sécurité sociale et les informations bancaires. Et là, c'est quelque chose qui peut devenir beaucoup plus embêtant pour la personne, mais ça suppose d'avoir en faire face à un hacker qui est quand même déjà très sophistiqué.
Paul-Olivier Gibert, président de l'Association des correspondants de données personnelles avec Thibaut Hu pour Europe 1. La politique, le Parti socialiste désignera le 14 octobre son candidat à la présidentielle. C'est Anne Hidalgo qui devrait être investie lors d'un vote interne, mais sans débat public contradictoire. La décision du PS réunie ce week-end en congrès à Villeurbanne. Le PS qui parallèlement ne change pas de tête. Olivier Faure a été reconduit dans ses fonctions de premier secrétaire ce matin. Un grave accident cet après-midi à Fontainebleau. Une femme a foncé avec sa voiture sur les terrasses de trois cafés, ce qui a provoqué des scènes de panique dans les rues de la ville. Au moins 6 personnes ont été blessées, dont 3 gravement. L'automobiliste a été interpellée. Elle était sous le choc et a été évacuée vers les urgences psychiatriques les plus proches. Autre événement dramatique aujourd'hui, à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. Une violente bagarre entre bikers a éclaté en marge de l'American Saloon. Une cinquantaine de motards se sont battus. Une personne a été tuée à coups de couteau, 2 autres gravement blessés. On passe au football. 6e journée de Ligue 1. Bordeaux a battu Saint-Etienne 2 buts à 1. Une belle opération pour le milieu de terrain des Girondins, Junior Onana.
Ouais, un soulagement mérité. Vu les efforts que nous avons faits, c'est mérité. Je pense qu'on a, à les premières minutes, on a donné le max. Après le but, on a un peu reculé. Ils ont mis beaucoup de pression et ils ont su égaliser. C'est vrai que l'égalisation a été difficile pour nous. Parce qu'ils sont chez eux et le public a poussé avec eux. Heureusement pour nous, on a su concrétiser la seule action que nous avons eue. Et on a mis le 2-1. Hein. Je pense que ça pousse. Collectivement, ça pousse. On est plus compact et on est plus unis. Donc je pense que les journées à venir, on va encore monter d'un cran.
Junior Onana au micro Europe 1 d'Anthony Perel. Un peu plus tôt, Lens a remporté le derby du Nord et a battu Lille 1-0. Une rencontre marquée par des incidents entre supporters. Le match a été interrompu durant une demi-heure après que des supporters lensois ont envahi le terrain. On passe à la météo, Valérie Darmon. Le mauvais temps, demain c'est pour la façade Est.
Tout à fait, car on retrouve la perturbation de ce samedi en fin de course sur la façade est, plus exactement sur les régions allant de l'Île-de-France au Grand Est, à la Franche-Comté, avec des pluies assez durables. L'extrême nord du pays reste à l'écart de ce mauvais temps. Dans l'ouest et le sud-ouest, on va retrouver un ciel plus variable et hésitant entre éclaircies et passages nuageux, pouvant s'accompagner d'averses éparses de la Bretagne aux plaines du sud-ouest. Dans le sud-est, entre la Provence et la Corse aussi, le vent va se renforcer, soufflant aux alentours de 70 km/h. Les températures affichent, comme le ciel, des couleurs contrastées, frais dans l'est, sous la perturbation, avec 17 à 19. Les températures ailleurs qui seront souvent comprises entre 20 et 23, 24 à 27 dans le sud-est.
Merci Valérie Darmon, vous êtes sur Europe 1. Il est minuit passé de 6 minutes. C'est la suite de la Libre Antenne avec Sabine Marin.
Yeah. Europe 1, la Libre Antenne. Sabine Marin.
Choisi la Libre Antenne d'Europe 1 pour accompagner votre soirée. Il est minuit passé de 7 minutes. Ça veut dire qu'il nous reste une petite heure à partager. Vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler. Vous faites le 3921. Cindy et Nicolas sont prêts à vous recevoir, à vous accueillir au standard et vous guider jusqu'à moi. Et puis pour réagir, intervenir par SMS, donner votre avis, apporter votre soutien, demander à être mis en relation avec quelqu'un, vous connaissez le principe. 7-39-21, suivi du mot nuit et de votre message.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Sonia, êtes-vous là?
Oui, je suis là. Oui.
Alors, on avait commencé. Merci, merci. On avait commencé avant les infos. Vous m'avez raconté une enfance difficile. Oui. Un début de vie de jeune fille, finalement un peu par dépit. Vous avez choisi la coiffure, mais je n'ai pas l'impression que c'était une passion.
Non, ce n'était pas ça. C'était
une
pas
période ça. Où vous avez fait beaucoup de bêtises, pour ne pas dire autre chose qui commence par un C.
Oui. Hein? Oui.
Et alors, comment ça a évolué tout ça?
Eh bien, ça va. J'ai réussi à me stabiliser de par ma maladie.
Voilà, jusqu'à ce qu'on vous diagnostique.
Par la suite, j'ai eu des appartements, j'ai eu des petits copains, mais ça n'a pas duré. Je suis tombée enceinte une fois, mais je ne l'ai pas gardée. Parce que le père, il s'en foutait. Mmh. Enfin, je me retrouve à 50 ans, seul, quoi. Seul et sans compagnie, quoi. Mais c'est très dur, c'est très dur.
Vous avez travaillé quand même, finalement?
Oui, j'ai travaillé, oui. Mais là, ça fait environ 3-4 ans que j'ai pas travaillé.
Et pourquoi?
Parce que je trouve pas de travail. Je trouve pas un travail adapté à moi.
Alors, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? Qu'est-ce qui bloque?
C'est-à-dire que dans mon travail, je ne dois recevoir ni stress ni pression.
Ah.
Et je ne peux travailler qu'à mi-temps.
Mmh.
Donc, très dur dans le monde actuel de trouver un travail où on ne nous met pas la pression, où on ne nous stresse pas. Surtout que dernièrement, j'étais dans le secrétariat, mais. Je vais faire une reconversion en 2023. J'étais dans le secrétariat, mais vraiment, j'ai eu toutes sortes de pression et de stress.
De stress. Une reconversion vers quoi? Qu'est-ce qui vous intéresse?
Je ne sais pas du tout.
Vous ne savez pas du tout?
Je ne sais pas du tout.
Est-ce que vous avez droit à ce qu'on appelle un bilan de compétences?
Ben, c'est justement ce que je dois faire en 2023.
D'accord. C'est pas mal, ça permet de faire le point sur ce que vous êtes, sur ce que vous savez faire, et sur ce que
sur
vous avez envie de
sur
faire.
Sur mes savoir-faire.
Et vos envies, c'est important aussi, ça.
Et mes envies.
C'est le moteur,
oui.
L'envie. Hein.
Oui, mais je ne sais pas ce que je veux faire. Je ne sais pas. Les tests le détermineront. Parce que j'ai exercé 1001 métiers dans ma vie pour, entre guillemets, gagner ma croûte. Mais ça n'a jamais été... j'ai jamais eu de CDI, quoi.
Mais qu'est-ce qui vous rendrait heureuse dans la vie? Quel est le secteur qui vous attire, comme ça, spontanément?
c'est l'artistique.
Eh bien, voilà déjà une piste.
Mais une artistique, mais quoi faire ? Quoi faire ? J'ai étudié toutes les pistes pour devenir artiste et ben, à mon âge je peux plus.
Attendez,
quoi.
Artiste c'est je un peu vaste. Plus. C'est dans quel domaine ?
Je sais pas. J'aurais aimé faire du cinéma par exemple.
Mm-hmm.
Et à 50 ans, c'est pas possible, quoi.
Possible. Vous pourriez peut-être déjà postuler pour faire de la figuration. C'est sympa, ça, de faire ça de temps en temps.
Bah oui, mais il n'y en a pas par chez moi. Il n'y en a pas par chez moi. Et je ne sais pas du tout quel site trouver pour m'inscrire.
Oh, il y en a un paquet. Il suffit que vous tapiez figuration. Film, cinéma, vous mettez quelques mots-clés, je pense que vous en trouverez. Hein.
Sur Google ?
Bien sûr.
Ah, d'accord. Bon, bah, écoutez, je le ferai.
Petite piste.
Je le ferai, mais c'est un peu ambitieux. Je ne sais pas si c'est moi qui me limite, mais c'est un peu ambitieux de ma part. Quoi.
J'ai un peu l'impression, c'est pour ça que j'essaie de vous ouvrir un peu ce cadre restrictif que vous vous mettez. J'ai l'impression que vous pensez que vous ne méritez pas, finalement.
Bah oui, je pense.
Je crois que vous l'avez tellement entendu petit.
Il y a beaucoup de choses que je pense que je ne mérite pas.
Oui.
Comme l'amour, d'ailleurs.
Mais oui, malheureusement, c'est le schéma qu'on vous a imposé petite.
Et oui.
Tu n'as pas de valeur, tu ne mérites rien du tout. Et vous avez grandi avec ça comme si c'était un cadre duquel vous ne pouviez pas sortir.
Ouais, tout à fait.
Or, vous avez le droit de casser ce cadre-là.
Oui, mais je ne sais pas comment.
J'allais dire avec une thérapeute, mais vous me disiez que vous n'y avez pas accès, donc ça, c'est un peu problématique, ça.
J'ai pas accès. J'ai eu accès à une psychologue, mais ça va faire trois ans que j'ai plus de psychologue au CMP où je vais.
Ils vous ont pas mis sur une liste d'attente au moins ?
Non, même pas.
C'est un peu curieux, ça.
Non, même pas. Et j'en ai parlé dernièrement à ma psychiatre et elle me rendra la réponse au mois d'octobre.
C'est-à-dire réponse de quoi ?
Réponse si j'ai droit à une psychologue ou pas.
Et c'est en fonction de quoi qu'on décide de ça ?
En fonction du besoin et des places.
Ouais.
Mais... Je ne sais pas quels sont les gros défauts de ma maladie, mais c'est vrai qu'à 50 ans, je vis une drôle de crise quand même. Même si j'ai écouté les infos tout à l'heure, je me suis dit, c'est marrant, on est tous en crise. On est tous en crise.
Ah bah la période est compliquée, c'est sûr.
C'est bizarre de se dire ça. Hein. Finalement, on est tous en crise. Même l'État français est en crise. Enfin... Non, et puis je cherche à me faire des amis aussi. J'ai besoin de. Je me suis inscrit dans une association où je peux faire du yoga parce que j'aime bien le yoga. Mmh. Et je suis sur liste d'attente. Pareil, je suis sur liste d'attente.
Comment ça ?
Ben, je suis sur liste d'attente parce qu'il n'y a plus de place pour l'instant.
Ah. Il n'y a pas d'autres cours où il y a de la place ?
Non, je veux faire du yoga.
Je comprends bien du yoga, mais il n'y a pas d'autres cours de yoga, il y aurait de la place ?
Non, pas sur celui que je veux faire.
Ah, alors ce qui peut se passer aussi, c'est que c'est la rentrée. Souvent, il y a beaucoup de monde en septembre.
Oui, il y a beaucoup de monde
en septembre. Et ça se désiste au fil des semaines quand même. Hein.
Oui, voilà.
Donc, ne lâchez pas l'affaire.
Oui, voilà, c'est ça.
J'étais en train
de... j'ai aussi beaucoup de mal à me faire des amis avec ma maladie.
Alors, qu'est-ce qu'elle vous empêche de faire, votre maladie ?
Peut-être des tas de choses.
C'est-à-dire ?
Je sais pas quoi, mais des tas de choses. J'ai eu une amie, elle ne me contacte plus. J'ai eu des amis virtuels qui eux aussi ne me contactent plus.
Mais est-ce que vous savez pour quelle raison ?
Non, je sais pas pourquoi. Enfin, sur une, je sais pourquoi, et sur l'autre, je sais pourquoi aussi, mais c'est moi qui a décidé de les quitter.
Ah bah c'est autre chose.
C'est moi qui a décidé de les quitter.
Oui.
parce qu'elle ne me convenait pas.
Oui, quelquefois, comme on dit, vaut mieux être seule que mal accompagnée.
Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais il faut que je m'occupe de ma maman. Je vis seule, j'ai pas d'amis, j'ai pas de boulot. Je galère avec mon compagnon, parce que mon ex-compagnon, parce que je lui ai encore téléphoné ce soir pour lui faire un petit coucou, mais finalement il m'a raconté tous ses malheurs. Il est négatif à un tel point j'ai décidé d'en finir complètement, quoi. Parce qu'il est trop négatif. Il est trop négatif. Moi, j'ai besoin de positif dans ma vie. J'ai besoin de rencontrer des gens. J'ai besoin de,
et vous savez,
de parler, d'échanger, de m'aérer.
À quel point c'est important, surtout quand on est malade?
C'est très important, surtout quand on a une maladie comme la mienne, oui, c'est sûr.
Ouais.
Oui, c'est sûr.
Qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous faire des amis? Parce que vous m'avez l'air de quelqu'un de plutôt sympathique.
Je sais pas.
Parce que là, vous me dites yoga, hors yoga, point de salut. Mais il y a peut-être d'autres activités qui pourraient vous permettre de rencontrer du monde.
Ben moi, j'avais envie de faire du yoga, moi.
Oui, j'ai bien compris, mais pour l'instant, ça fonctionne pas.
Non, mais je suis sur liste d'attente, ça peut fonctionner.
Et est-ce qu'il pourrait y avoir autre chose en plus du yoga?
Non, parce que ça me ferait trop cher.
Bon,
ça me ferait trop cher après s'il y a autre chose à voir avec le yoga.
Des fois, il y a des clubs de lecture ou des clubs qui ne sont pas très chers.
Des clubs de lecture.
Des associations. En fonction de ce que vous aimez faire dans la vie, bien sûr.
Oui, bien sûr.
Et puis, si vous avez envie de parler aussi, vous savez qu'il y a bien sûr, il y a SOS Amitié. Il y a la Croix-Rouge aussi qui est un service d'écoute téléphonique.
Oui, mais j'aime pas.
Pourquoi?
J'aime pas. Parce que SOS Amitié, on vous écoute, mais on ne vous répond pas.
Ouais.
Moi, j'ai besoin qu'on me réponde, moi.
Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, Sonia? Je suis en train de réfléchir. Comment démêler tout ça? Parce que je suis... Il y a quelque chose de vivant chez vous que je sens. Il y a une envie, vous êtes loin d'être éteinte, donc il y a plein de choses à faire de cette énergie-là.
Je suis très, comment dire, tous les jours, je fais du tous les jours, je fais 10 minutes d'aérobic. Après, j'ai la pêche pour faire des trucs, pour
avoir une certaine énergie. Oui, c'est ça, je sens que vous bougez, en tout cas.
J'ai une certaine énergie, je bouge, je me bouge pour mes rendez-vous. Je me bouge pour ma mère, je suis ouverte, je suis sympa, je suis curieuse, et avec ça, j'arrive pas à rencontrer des gens.
Alors où ça coince?
Je comprends pas.
Où ça coince?
Ouf. Où ça coince?
Moi, ce que je vois comme ça rapidement, hein, c'est d'abord ce cadre restrictif qu'on vous a mis et dans lequel vous restez. Je mérite pas qu'on s'intéresse à moi.
Oui.
J'ai pas de valeur.
Oui.
Je m'aime pas.
Oui.
Donc comment voulez-vous que les autres vous aiment si vous ne vous aimez pas vous-même déjà?
Bah oui, c'est un gros travail. Je suis en train de travailler dessus.
Ça, c'est déjà bien.
Je suis en train de travailler dessus.
Et puis la deuxième chose, peut-être êtes-vous un peu trop restrictif dans vos choix. Comme vous me dites, je veux faire du yoga, ça marche pas, je suis en liste d'attente. Et bien, trouvez autre chose en attendant. Il y a plein de choses à faire.
Bah oui, mais quoi?
Allez proposer même à des voisins des soirées jeux de cartes ou des soirées films ou des soirées pour discuter, pourquoi pas. Vous savez, souvent plein de gens souffrent de solitude simplement parce qu'ils n'osent pas aller parler aux autres.
Oui, voilà.
Quelquefois, on se rend compte qu'il suffit d'un mot, d'un regard pour que l'autre n'attende que ça, finalement, pour vous répondre.
Mais ça, on ne me l'a jamais dit, ça. Ça, on ne me l'a jamais dit. Ah, c'est dur.
Qu'est-ce qui est dur?
La vie. La vie est dure.
À nous de faire le maximum pour la rendre plus belle aussi.
Oui, c'est sûr.
Vous savez, quelquefois, on croise quelqu'un à la boulangerie ou en faisant la queue quelque part, et on sent dans le regard qu'il suffit d'un mot pour que la conversation s'enclenche. Les gens n'ont oui. pas envie, on le sait. Ils regardent leurs pieds, ils sont sur leur téléphone, ils s'en fichent.
Oui.
Mais il y en a qui ne demandent que ça.
Oui.
Un petit mot complice sur n'importe quoi, sur le temps, sur la baguette, sur n'importe quoi, et ça peut déjà enclencher quelque chose. Mais c'est vrai.
Oui, c'est vrai.
Et puis, puisque vous aimez les animaux, enfin, j'imagine si vous avez un chat.
Oui, j'aime les animaux, oui.
Vous pourriez aussi être bénévole dans des associations comme la SPA. Même un jour par mois, c'est rien du tout, mais ce sont des contacts à développer, ça.
C'est ce que je m'apprête à faire.
Ah, ben ça, c'est chouette.
C'est ce que je m'apprête à faire.
Parce que
j'aime trop les félins.
Eh ben oui.
Et j'ai envie de m'occuper d'animaux.
Et c'est tellement gratifiant de pouvoir leur retrouver une famille et leur permettre d'être heureux à nouveau.
Oui.
Ça fait du bien.
Je dois partir en vacances à la campagne de lundi pendant une semaine. Et après, je m'occupe dans le centre de bénévolat de m'occuper d'animaux.
Bon. Et en plus, ça vous permet de rencontrer des gens qui ont la même passion que vous.
Oui, oui.
On est souvent sur la même longueur d'onde quand on aime les animaux.
Tout à fait. Oui. Là, je risque peut-être de rencontrer des gens.
Ben, vous voyez qu'il y a des portes qui s'ouvrent.
Oui, tout à fait.
C'est le conseil que je donne souvent. Ne regardez pas ce que vous n'avez pas ou plus, mais regardez ce que vous pouvez faire avec tout ce que vous avez.
Oui, mais c'est très difficile. C'est très difficile, ça sera tout un travail, psychothérapeutique de travailler ça, parce que je me retourne trop dans le passé. J'arrive à vivre au présent. Le futur, il est incertain, mais c'est pas grave.
Vous connaissez quelqu'un qui a un futur
même,
vous connaissez quelqu'un qui a un futur certain, vous?
Non. Non. Non, mais j'ai de l'espoir.
Bon, ça, c'est déjà une bonne chose.
Non, mais j'ai de l'espoir.
Et vous connaissez la métaphore que j'utilise souvent du rétroviseur?
Non, je ne la connais pas.
Pourquoi, sur une voiture, le rétroviseur est plus petit que le pare-brise?
Oui, c'est vrai, et c'est oui. tellement vrai.
Il ne sert qu'à regarder ce qu'on a dépassé et surmonté. Alors, un petit coup d'œil de temps en temps, d'accord, mais le restant du temps, c'est devant qu'on regarde.
Ouais, c'est devant qu'il faut regarder, ouais. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Là, je suis d'accord avec vous. Hein.
Ah, ben chouette. Et je pense qu'il y a de jolies choses qui vont arriver devant.
Eh ben, j'espère.
Le yoga, il y aura bien une place quelque part. On va vous trouver sûrement aussi un thérapeute qui va vous accompagner.
J'espère.
Sauver des animaux et les placer, les rendre heureux, c'est tellement, tellement... C'est un pur bonheur.
C'est gratifiant.
C'est gratifiant, c'est du bonheur pour tout le monde.
C'est gratifiant.
Et tout ça, c'est des choses qui vont remplir votre cœur de lumière. Ça va vous faire beaucoup de bien.
Ah bah oui, j'espère. Uh-huh. J'espère.
Mais oui, Sonia. Évidemment.
J'espère.
Évidemment. Et en attendant, c'est moi qui vous envoie toute la lumière que je peux.
Merci beaucoup, Sabine.
Et je vous embrasse très très fort.
Moi, je vous embrasse aussi. Au revoir, Sabine.
Prenez soin de vous, Sonia. Au revoir.
Merci, au revoir.
La Libre Antenne d'Europe 1. Sabine Marin accompagne vos nuits. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love.
Yes, I'm just holding on for tonight. Oh, I'm just holding on for tonight. On for tonight. On for tonight.
Alors, c'était Sia et je vais vous prononcer le titre en français, Chandelier.
Sabine Marin est à votre écoute sur Europe 1.
Et c'est Nadège que j'accueille maintenant. Bonsoir Nadège.
Bonsoir Sabine.
Soyez la bienvenue Nadège.
Merci beaucoup. Je suis un peu stressée parce que c'est la première fois que je parle à la radio.
Mais il faut une
première... Vous m'entendez bien ?
Je vous entends très bien. Il faut une première fois à tout.
Oui, bien sûr.
En plus, vous avez une jolie voix, donc ça devrait bien se passer.
Ah bon ? Oui. Voilà, je vous téléphone parce que j'ai plusieurs problèmes, mais je vais vous parler de celui qui m'embête en ce moment.
Mm-hmm.
C'est que mon mari m'a quittée il y a 14 ans, brutalement, alors qu'il avait une maîtresse depuis 10 ans et je n'étais pas au courant.
Ah, vous ne savez, vous n'aviez aucun doute.
Aucun doute, parce que c'est quelqu'un en qui j'avais entièrement confiance.
Vous étiez mariée.
Vraiment confiance.
Vous étiez mariée depuis combien de temps ?
Nous étions ensemble depuis 30 ans.
Ah oui.
Voilà. Et grâce à mon psychiatre, à qui j'avais dit le soir même, que je trouvais que mon mari était distant, regardait souvent la télé, ne discutait plus avec moi. Mon psychiatre me dit, il y a quelqu'un. Alors je lui dis, oh non, non docteur, c'est pas possible, vous savez, c'est pas possible. Nous sommes très liés. Il me dit encore qu'il m'aime. Nous entendons très bien. Le mois dernier, nous sommes partis en vacances ensemble. C'était vraiment. Nous avons fait des randonnées à la montagne. C'était vraiment bien.
Mais les premiers concernés sont souvent les derniers avertis.
Voilà. Et alors, il me dit, il y a peut-être quelqu'un par la pensée. Ah bon ? Je dis bon. Alors la séance se termine, il me renouvelle mes médicaments et je repars. J'habitais un village à 20 km de la ville où je travaille.
Médicaments pourquoi ?
Parce que à la naissance de ma fille, à 31 ans, le lendemain de l'accouchement, j'ai fait une dépression postpartum.
Mm-hmm.
Et ça a été vraiment, vraiment horrible. Parce que dans les années 80, ma fille est née en 82, dans les années 80, on ne s'occupait pas tellement des problèmes psychologiques peuvent survenir après un accouchement. Voilà.
Ouais.
Et je me souviens que ça a commencé le lendemain de l'accouchement.
Mmh.
Et je me suis dit que j'étais bizarre, je me sentais bizarre. J'avais pas d'angoisse, pas encore. Mais en regardant ma petite fille dans le berceau, Je sentais quelque chose qui n'allait pas. Et je n'ai rien dit. Rien, absolument rien dit.
Vous avez tout gardé à l'intérieur. Quoi. Ouais.
Voilà. D'abord parce que j'avais honte. Parce que vous savez, il faut être... Quand on a un bébé, il faut être... Il y a l'instinct maternel. C'est pas normal d'avoir des problèmes. Voilà.
Mmh.
Et tout le monde venait. T'as une belle petite fille, tout ça.
T'as tout pour être heureuse.
Voilà, t'as un mari gentil, t'es heureuse, tu travailles, vous travaillez tous les deux, vous avez fait construire, enfin tout va bien. Et quand je suis rentrée à la maison et que je me suis retrouvée seule, mon Dieu, j'avais comme envie de vomir quand je devais m'occuper de ma petite fille, lui changer les couches, lui donner le biberon, j'avais envie de vomir. Et je me mettais à pleurer. Je restais toute seule toute la journée parce que mon mari était un joueur professionnel de football. Il travaillait quand même, c'était semi-professionnel. Donc il travaillait toute la journée, il rentrait vers 17h, il prenait son sac et il partait à l'entraînement et il rentrait vers 22h30.
Et personne ne vous a expliqué ce que c'était, que c'était normal d'avoir, enfin, c'est très fréquent une dépression postpartum.
Oui, maintenant je le sais, oui.
Et oui, à l'époque...
Personne... Non, alors j'ai vu mon médecin qui m'a donné un anxiolytique et puis c'est tout.
Oui.
Alors c'est après deux ans après, hein, alors que j'étais toujours malade, hein,
Oui, donc
j'avais des arrêts maladie.
C'est plus une dépression postpartum, c'est une dépression qui s'est installée pour longtemps.
Pour longtemps, puisque je suis toujours soignée. Ouais. Mon médecin m'a dit, ça s'est transformé en dépression mélancolique.
Mmh.
Et on a découvert, il n'y a pas longtemps, que j'étais aussi bipolaire.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Et alors, on m'a envoyée chez un psychiatre, donc deux ans après, et chez une psychologue. Mais jamais je n'ai été bien. Jamais.
Bien dans quel sens ? Pas écoutée ou pas bien traitée ?
Pas bien traitée. Moi, je pense, j'en ai parlé récemment à une psychologue, elle m'a dit, vous auriez dû être hospitalisée. J'ai dit, si vous saviez, comme j'avais besoin, quand j'étais chez moi toute seule, que quelqu'un me prenne dans ses bras,
ouais.
que quelqu'un me dise, Nadège,
ça va aller.
Ça va s'arranger. J'avais ma maman qui savait que j'étais malade, mais qui venait de temps en temps chercher ma petite fille pour aller lui faire un tour en ville, parce que je restais cloîtrée chez moi, je ne sortais pas ma petite fille. Ma belle-mère travaillait, donc j'avais personne. Pas de sœur, pas de frère, personne.
Et votre mari est plutôt absent, si je comprends bien.
Tout le temps absent.
Ouais.
Tout le temps. Et quand ce n'était pas l'entraînement de football, c'était les réunions.
Mm.
Mais en fait, j'ai appris après qu'il me trompait déjà, il m'a trompée pendant la grossesse. Je n'ai su tout ça qu'au moment où, il y a 14 ans, il est parti. Donc, il m'a trompée toute sa vie. Et quand je lui en ai parlé, il m'a dit « Mais je t'ai tout le temps aimée, mais j'avais besoin. C'était un charmeur. Mmh. » Voilà. Il avait besoin d'être admiré et il aimait les femmes. Donc, il avait des petites aventures comme ça, à droite et à gauche. Mais quand, il y a 14 ans, alors donc, je suis allée chez mon psychiatre. Donc, je saute du coq à l'âne. Ce soir-là, je suis allée chez mon psychiatre. Il m'a dit « Il y a quelqu'un par la pensée. »
Mmh.
Je suis rentrée, je me suis assise devant lui, je l'ai regardé, et il avait l'air absent, il regardait la télé, mais il a regardé sans la voir. Et je lui ai dit, tu sais ce que vient de me dire mon psychiatre, que tu avais quelqu'un par la pensée.
Ah, vous êtes allée direct ?
Direct.
Oui.
Direct, parce que je suis assez directe quand même. Hein. J'ai toujours été très franche dans la vie, toujours.
Mmh.
Et là, je ne sais pas, mon psychiatre... Et il m'avait mis la puce à l'oreille. Il fallait que je le dise avant d'aller me coucher. Il a levé la tête et il a fait « Oui, j'ai quelqu'un. »
Aïe.
J'ai quelqu'un depuis 10 ans. Et depuis 10 ans, elle me demande de te quitter. Wow. Et pendant 10 ans, j'ai vraiment pas eu envie de te quitter. Mais maintenant, j'ai envie. Et je vais partir.
Ah, mais c'est comme s'il attendait que ça, quoi.
Voilà. Voilà, mon psychiatre m'a dit, il n'avait pas le courage de vous le dire.
Oui.
C'est parce que vous lui en avez parlé qu'il vous l'a avoué.
Oui, vous avez tendu la perche, il l'a prise tout de suite. Quoi.
Voilà.
Mm.
Alors, on est restés ensemble 6 mois parce que lui, il travaillait. Il était fonctionnaire, comme moi, mais il travaillait au village. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je ne le savais pas, parce que toute la journée, pendant qu'il était au village, il profitait de quelques instants de liberté pendant sa journée pour aller rejoindre cette dame.
Mmh.
Et moi, j'étais dans une grande ville où je travaillais aussi toute la journée. Et quand je rentrais le soir, bien sûr, il était là.
Mais
donc, je ne savais pas.
Comment il était comme papa pendant cette période-là ?
J'ai eu l'impression qu'il n'avait pas eu envie d'avoir d'enfant.
Ah. Pas impliqué.
Comment ?
Pas impliqué dans l'éducation, dans l'accompagnement, tout ça ?
Non.
Non.
Mmh. Non. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a choquée. Quand j'ai fait le test de grossesse, quand il est rentré du travail, j'étais toute contente de lui montrer le petit thermomètre.
Ben oui.
Il est resté de marbre.
Ah,
j'ai cru qu'il allait me prendre dans ses bras. Il est resté de marbre.
Ouais,
il m'a regardé
ça démarre mal,
froidement.
Ouais.
Voilà.
Bah oui, si maintenant qu'on sait avec le recul qu'il avait quelqu'un d'autre en tête.
Voilà.
Ouais.
Voilà.
Et donc là, ce soir-là, il vous répond ça tout de suite. J'imagine que vous êtes effondrée.
Effondrée, oui. Et il me dit qu'il va partir, qu'il cherche du travail, parce qu'elle, elle habite dans un autre département. Donc, il va aller la rejoindre, parce qu'entre-temps, elle a quitté la région, parce qu'elle n'y croyait plus, elle. Elle pense, au bout de 10 ans, elle se disait, il ne va jamais quitter sa femme. Mmh. Et donc, elle était partie dans un autre département, mais il se continuait à se téléphoner. Et il me dit, j'attends de trouver du travail, je démissionne, alors qu'il était fonctionnaire, et je pars. Et on est resté 6 mois comme ça. 6 mois. 6 mois à vivre comme ça, côte à côte. Et elle a fini par lui trouver du travail parce qu'elle avait des relations. Il a démissionné et il est parti. Et il m'a dit en partant, tu sais, on a vécu beaucoup de choses ensemble. Je t'ai beaucoup aimé et je prendrai des nouvelles de toi. Depuis 14 ans, il ne m'a pas téléphoné une seule fois. Alors que moi, je lui ai envoyé des lettres, des lettres, des lettres. Et je ne pense qu'à lui. Je n'arrive pas à tourner la page. Je n'arrive pas. Alors, je vous entends souvent à la radio dire, est-ce que c'est encore de l'amour ou est-ce que c'est de l'attachement?
Oui.
Moi, j'ai l'impression que ce n'est plus que de l'attachement. Je regarde les photos sans arrêt. Les photos où on était heureux tous les trois quand on allait en vacances. Et puis, je repense au bon moment. Et mon psychiatre me dit, mais vous le mettez sur un piédestal. Pensez au moment où vous avez fait du mal.
Alors exactement, et ça, vous avez dû m'en entendre parler sur l'antenne aussi. Quand on se repasse le film avec son ex, on a rarement l'honnêteté de se repasser le vrai film. On se fait souvent le film de ce qu'on aurait voulu vivre, ou alors un film édulcoré. Et elle a entièrement raison, votre psy, quand elle vous dit « attention, pensez certes aux bons souvenirs, mais pensez aussi à tous les mauvais ». Ne vous racontez pas un film à l'eau de rose dans lequel tout était merveilleux parce que ça n'a pas existé.
Oui.
Et malheureusement, on a très souvent tendance à faire ça. C'est plus sympathique de se refaire le film en changeant un peu le scénario.
Bien sûr.
Et si vous voulez, comme les souvenirs ne sont pas immuables, un souvenir change à chaque fois qu'on y repense en fonction de l'état d'esprit dans lequel on est quand on y repense. Et problème, c'est qu'au bout d'un moment, à force de vous raconter un film qui n'est pas vraiment la réalité, vous allez finir par vous faire croire à vous-même que c'était la réalité. Quel homme merveilleux, quelle relation formidable j'ai eue, etc., etc. Et ça, c'est de l'auto-souffrance. Ça n'existe pas ce que je vous dis là comme terme, mais vous comprenez ce que je veux dire. Vous alimentez vous-même la machine à vous faire du mal, quoi.
Ah ben oui, la psychologue me l'a déjà dit.
Et oui. Vous savez, il y a 5 étapes dans une séparation. Il y a un temps de souffrance, qui est le temps où on se prend ça dans la tête, évidemment. Il y a un temps de peur, parce qu'il faut tout réorganiser émotionnellement et matériellement.
Mmh.
Il y a un temps du bilan, où on réfléchit, on se repasse justement des films. Il y a un temps pour tourner la page, et il y a un temps pour de nouveaux bonheurs. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes pour l'instant bloqué au stade tourner la page.
Ouais.
Parce que comme les films que vous passez sont des films qui sont trop sympathiques par rapport à la réalité, vous n'avez pas envie de tourner cette page.
Ah oui. Et vous voyez, au travail, il y avait 2-3 hommes qui, mes copines me l'ont dit, un tel te trouve charmante, mais je n'ai jamais regardé personne,
ben oui,
je ne vois personne, comment, je ne vois
ben
pas
oui,
d'homme.
Mais évidemment, comment voulez-vous commencer un nouveau livre si vous n'avez pas fermé le dernier?
Oui.
Et
ouais.
Ça ne tient qu'à vous maintenant, Nadège.
Mais vous savez, le problème aussi, c'est que le mot, vous savez, procrastiner,
oui.
C'est ça?
Oui. Reporter toujours à plus tard ou au lendemain, ce qu'on pourrait faire tout de suite.
Voilà. Je pensais à la dame qui était passée avant, parce que je me dis toujours, je vais aux foires, aux associations, je prends des tas de papiers, parce que je m'intéresse à tout, mais dans mon canapé. La politique, ça m'intéresse. Le sport, ça m'intéresse. Beaucoup de choses m'intéressent. Donc, j'avais ramené de la foire aux associations, des tas de papiers pour rejoindre. J'adore les chats aussi. Je me disais, je vais faire du bénévolat. Je vais aller dans un café de philosophie où il y a, dans la ville où j'habite. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Je ne fais rien. Je ne m'inscris nulle part. Je vais me coucher et je reste couchée toute la journée.
Alors
je ne me lave pas.
Ça, ce sont des signes de dépression, ça vous le savez. Hein.
Oui, je le sais. J'ai d'ailleurs été hospitalisée il y a 5 ans.
Et là, en ce moment, est-ce que vous avez un traitement contre la dépression ?
Ah oui, j'ai un traitement très très fort, très très fort.
Qu'est-ce que vous appelez très très, 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 fort. Très, très fort ?
J'ai de l'Effexor à 3 doses de 75 mg. C'est vraiment... J'ai de l'anafranil. J'ai du Lamictal à 300 mg.
Donc beaucoup de choses, d'accord. Mais est-ce que vous avez l'impression que ça vous fait du bien ?
Non.
Mais on est bien d'accord. Donc ça serait peut-être important d'aller voir votre médecin et de faire un point là-dessus. Il y a d'autres molécules, il y a d'autres médicaments qui peut-être vous feraient plus de bien que ce que vous prenez. Parce que là, vous avez quand même beaucoup de signes d'une dépression qui n'a pas évolué.
Oui, ça n'a pas évolué. Et vous savez, quand mon mari est parti, il m'a dit aussi une chose, il m'a dit... Je comprends un peu aussi qu'il ait eu envie d'aller ailleurs. Parce que quand vous rentrez du travail ou de l'entraînement de foot et que vous trouvez une femme couchée, tout le temps, couchée, et je ne lui préparais même pas à manger. J'avais envie de rien, j'ai toujours envie de rien d'ailleurs. J'ai toujours envie de rien.
Oui, je trouve quand même un peu trop gentil pour lui. Hein. C'est quand même lui le coupable dans l'histoire, c'est pas vous. Hein.
Ouais.
C'est un peu facile.
Et il m'a dit avant de partir, il m'a dit, j'en ai marre d'être ton infirmier.
C'est pas très sympa.
Alors
ça.
Que je sais pas. Parfois, j'avais envie de lui expliquer ce que je ressentais, et il m'envoyait balader en me disant, écoute, avec ta dépression, ça fait 30 ans que tu me parles de dépression.
Mais ben vous voyez, quand vous vous repassez le film, repassez-vous ces phrases-là, ces échanges-là, qui sont quand même pas très agréables.
Oui.
Et oui.
Ouais. Comme avant de partir, il m'a dit, s'il y a quelque chose que je vais regretter, ce sont mes chats. Ça m'a fait mal.
Ça aussi, c'est il est très acide. Hein.
Oui, très dur. Ma fille va le voir. Ça, je suis contente qu'elle n'ait pas coupé les peaux. Hein, ma fille va le voir régulièrement. Ma fille a 38 ans, là, et je suis grand-mère aussi. Elle va le voir et il lui dit « Tu diras à ta mère qu'elle arrête de m'écrire. » Et pourtant, ce sont des lettres gentilles. Ce sont des poèmes que je lui envoie. Ce sont des lettres d'amour.
Vous continuez à lui écrire ?
Oui. Quand je pleure le soir, je me dis je veux pas mourir parce que j'ai peur de la mort. Je veux pas mourir toute seule dans mon lit. Alors je pleure le soir parce que je me dis il va encore falloir que j'aille me coucher. Et si je meurs la nuit, je lui avais déjà dit je voudrais mourir dans tes bras.
Mais là aussi, Nadège, vous faites partie de ces gens qui vivent leur vie au passé et pas au présent.
Ouais.
Et oui. Je me posais une question. Est-ce que dans le passé, il y a très longtemps, quelqu'un d'autre vous a traité comme ça ? Avec si peu d'estime, si peu d'attention ?
Oui.
Qui ?
Je trouve que avec ma maman, c'était pas ça. C'était pas ça. Ma maman, j'avais tout ce que je voulais sur le plan matériel, mais j'aurais voulu de la chaleur humaine. Et elle-même, avec sa mère, il n'y avait pas non plus de chaleur humaine. J'ai l'impression que c'est une chaîne qui continue, parce que ma fille est très froide aussi avec moi. J'ai souvent envie de la prendre dans mes bras, mais elle me regarde tellement froidement que je ne peux pas.
Et peut-être que cette fragilité vient de là, non, vous ne pensez pas ?
Oui, je pense. J'ai déjà pensé, d'ailleurs, en psychothérapie, je l'ai beaucoup travaillé. Mais vous voyez, en psychothérapie, on travaille beaucoup de choses, mais je trouve qu'on ne va pas mieux. On va mieux quand on sort juste après la séance, on va mieux. Comme quand je parle de la mort, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, ça va, j'ai plus peur de la mort, j'ai plus peur d'être dans un cercueil, j'ai peur d'être dans un cercueil. Et quand je parle de la mort avec une psychologue, ça va. Et puis ça revient toujours, Sabine, ça revient toujours.
Bah parce que vous parlez de la conséquence, c'est-à-dire la peur, mais vous n'êtes pas remonté à l'origine.
Voilà.
C'est comme si vous aviez une mauvaise herbe, une mauvaise plante à l'extérieur et que vous me disiez, je suis contente, on a coupé la tête. Bah oui, mais il y a une racine, donc ça finit par ressortir, évidemment.
Mais vous vous rendez compte que j'ai commencé à aller mal à 31 ans. J'ai accouché à 31 ans. Je viens d'avoir 70 ans. Mais c'est un échec. C'est un échec. Jamais je n'irai bien. C'est un échec.
Je trouve un peu dur. Je pense que vous avez quand même compris beaucoup de choses. Vous avez quand même avancé sur beaucoup de choses, mais que là, ça bloque un peu. Je vous ai dit sur ces cinq étapes là de ce qu'on appelle le deuil d'une séparation, un deuil amoureux, vous êtes bloqué à tourner la page.
Oui.
Il reste juste une étape, tourner la page et enfin se permettre de nouveaux bonheurs, même des petits. Des nouvelles rencontres, des nouveaux moments agréables, des nouvelles envies surtout. Et pour ça, il faut vraiment fermer la page.
Ouais. Mais vous savez, des envies, j'en ai.
Ah,
mais
ça, c'est une bonne chose.
Pas. À part, je pense à la dame, j'espère qu'elle m'écoute, la dame de 85 ans le week-end dernier, qui vous a dit qu'elle adorait le football. Vous
oui, oui, oui. Alors, j'ai de bonnes nouvelles. Il paraît qu'on a eu des contacts, m'ont dit Nicolas et Cindy. Et quelqu'un s'est proposé de l'amener à voir un match. Donc, j'attends qu'elle appelle pour me raconter. Ça, c'était vraiment super.
Bah justement, je voudrais dire à cette dame que j'aime le même club qu'elle.
C'était les Rouges et Or. Les Sang et Or, oui, c'est ça. Oui.
Les Sang et Or. Et que je les suis depuis que je suis toute jeune. Et que j'habite maintenant dans les Bouches-du-Rhône. Mais que si j'avais habité dans le Pas-de-Calais, je serais allée la chercher pour l'emmener au stade.
Ah, c'est sympa.
Voyez. Et lui dire que j'aime beaucoup Lens comme elle. Et vous savez, quand elle a parlé, vous étiez étonnée qu'elle aime le football. Et bah, quand j'ai entendu parler, je me suis dit, mais à Lens, il y a énormément de femmes et énormément de dames âgées. Ça doit être Lens. Et bien, je ne m'étais pas trompée.
C'est marrant, je ne savais pas du tout ça.
Ouais. Alors, le football à Lens, c'est de père en fils, c'est de mère en fille, hein. Même de grand-mère en fille.
Oui, bah j'ai compris ça, j'ai trouvé ça vraiment très sympa.
Ouais,
et j'étais ravie d'entendre que dès le lendemain, il y a des gens qui se sont proposés de l'accompagner.
Oh ben c'est bien. Ah ouais. Oui, ben ça ne m'étonne pas. Ouais. Ça m'étonne pas.
J'espère que ça va se faire.
Enfin voilà, vous voyez, je me passionne pour le football. Vous voyez, là j'y arrive à... la semaine prochaine, je vais voir un match à Marseille. Lens vient jouer à Marseille. Je vais à Marseille. Mais en dehors de ça, qui est une passion vraiment énorme, j'ai ça dans la peau... Je ne fais rien. C'est pas normal quand même de rester en pyjama toute la journée couchée et de ne sortir que pour aller chercher à manger. Là, c'est ce qu'on appelle la clinophilie, c'est ça?
Mais c'est surtout que je pense vraiment que votre traitement n'est pas adapté.
Oh.
Parce que si ça fait si longtemps que vous avez des antidépresseurs et que ça ne fonctionne pas, je pense qu'il est temps de refaire un point sérieux avec votre médecin.
D'accord.
Pour changer de molécule, changer de dosage, mais trouver quelque chose qui vous aide. Il y a quand même suffisamment maintenant d'antidépresseurs qui boostent, qui font du bien.
Oui, bien sûr.
Qui permettent d'aller de l'avant, ça sert à ça. Et là, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas du tout.
Bah, je stagne.
Après, la procrastination peut aussi avoir un rapport avec la peur de mourir.
Oh, si vous saviez comme j'ai peur.
C'est comme si on empêchait le temps d'avancer quand on procrastine.
Ah oui. Je croise un corbillard, ma journée est foutue.
Et vous avez compris d'où elle vient, cette peur?
Parce que j'ai pas envie de vivre.
Ah.
Parce que j'ai peur de vivre. Parce que je ne vis pas.
Est-ce que...
Quand je suis couchée dans mon lit, c'est comme si j'étais morte, dans le fond.
C'est une fuite.
C'est une fuite, oui.
Et ça, vous le vivez comme ça depuis son départ ou depuis la naissance de la petite?
Avant la naissance, déjà, j'étais fragile.
Déjà avant.
Et puis oui. Et d'ailleurs, ma maman avait été appelée par la maîtresse de l'école primaire. Parce que j'avais fait une rédaction qui traitait de la mort et j'avais une dizaine d'années.
Mmh.
Et avec des petits bonhommes, je faisais des enterrements. Mais toute ma petite enfance, j'ai baigné dans la mort et il y a eu des morts très violentes dans la famille de ma mère.
Est-ce que vous êtes intéressée au travail transgénérationnel?
Non, je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs.
Ben, c'est vraiment intéressant d'aller travailler. Alors,
Il y a plein de thérapies différentes. Il y a ce qu'on appelle la constellation familiale.
Oui.
Il y a des livres très intéressants aussi à lire sur tout ce qui est transgénérationnel. Pour comprendre ce dont on hérite, parce qu'il est prouvé scientifiquement maintenant qu'on hérite de blessures, de mal-être de nos ancêtres. Des chocs émotionnels qui ont pu transformer leur ADN de manière infime. Mais nous héritons de l'ADN de nos ancêtres aussi de manière infime. Et quelquefois, on peut porter des tas de choses qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à nos aînés, si vous voulez.
Oui, oui.
Et peut-être
que
chez vous, j'ai la sensation en tout cas qu'il y a quelque chose de cet ordre-là.
D'accord.
Comme si vous traîniez des wagons qui ne sont pas à vous.
Oui, c'est possible. C'est possible, oui. Quand je repense à ma grand-mère, c'est vrai que c'était quelqu'un de très triste aussi et qui ressassait sans arrêt. Elle a vécu jusqu'à 102 ans. Elle avait connu la première guerre, la deuxième guerre. Elle avait perdu un fils qui faisait de la résistance. Et quand on allait la voir avec mes parents, ça n'était que sur le passé.
Oui.
Tout le temps. Tout le temps. J'ai pas été heureuse. Il y avait la guerre, il y avait les bombes. J'habitais dans le nord à l'époque. Hein. Mmh. Je suis pas du sud. J'habitais dans le nord, dans une ville qui était entièrement bombardée. Et ça a marqué toute mon enfance.
Ça vous a imprégné tout ça, bien sûr.
Oui. Ah oui, ça m'a imprégné d'ailleurs. J'ai fait un voyage j'aime bien voyager. Je suis allée en Pologne il y a quelques années. J'ai voulu aller à Auschwitz. J'ai tenu à aller à Auschwitz.
Oui.
J'en avais besoin.
Oui, il y a quelque chose là qui vient de loin chez vous. Vous savez ce que je vais faire? Je ne sais pas si vous savez que j'ai une page Facebook publique qui s'appelle Sabine Marin. Et je crois que j'avais déjà mis une vidéo là-dessus, mais je vais la remettre parce qu'elle doit dater d'il y a assez longtemps. Sur les preuves scientifiques de notre héritage transgénérationnel dans l'ADN.
Ah, d'accord.
C'est vraiment très intéressant cette explication donnée par des scientifiques. Je vais mettre ça demain matin sur ma page et vous pourrez peut-être...
Oh, ben c'est gentil.
Ça sera peut-être pour vous aussi un déclic pour aller travailler un peu vers ça. Et j'en profiterai pour mettre quelques conseils de lecture aussi.
D'accord. Ben écoutez, c'est bien, c'est gentil. Ah. Je vous remercie.
Parce que quelquefois, on peut débloquer des choses vraiment intéressantes en allant voir de ce côté-là ce qui se passe.
Oui, d'accord.
Parce que vous n'êtes pas loin de la sortie quand même de toutes ces étapes-là.
D'accord.
C'est juste qu'il y a un réglage au niveau à mon avis, du traitement médical qui n'est pas le bon. Et puis il vous faut travailler sur quelque chose qui va vous débloquer, vous faire avancer.
D'accord.
Et peut-être qu'effectivement aller chercher aussi du côté de maman, tout simplement. Comme vous me dites finalement spontanément quand je vous dis est-ce que quelqu'un vous a déjà traité comme ça, vous me dites ma mère.
Oui.
Et oui.
Oui. Oui.
Et donc ce qui se joue là en ce moment, c'est peut-être simplement aussi quelque chose qui se rejoue du passé.
Ouais, d'accord. Je me souviens qu'elle était en colère quand, au moment de la dépression postpartum, quand j'ai commencé à voir une psychologue, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas leur raconter? Tu leur parles quand même pas de ton enfance.
Ah tiens.
Oui.
Ça me rappelle une mère que j'avais rencontrée qui obligeait sa fille à lui raconter ce qu'elle racontait pendant les séances de psy.
Ah oui.
C'est terrible, ça, ce besoin de contrôle. Ça prouve quand même qu'elle n'avait pas forcément de la conscience tranquille. Hein.
Voilà, c'est ce que je me suis dit.
Oui.
Voilà. Bon, elle ne m'a jamais demandé ce que je disais, mais j'ai vu qu'elle était vraiment choquée. Alors que mon père ne disait rien. D'ailleurs, je le trouvais soumis, mon papa.
Oui,
je le trouvais soumis.
Un peu peut-être comme vous l'êtes à cet homme aussi aujourd'hui, non?
Oui, peut-être, oui. Oui.
Mais vraiment, je vous redis ce que je vous disais tout à l'heure. Attention aux films que vous vous repassez. Parce que vous vous reconstruisez un scénario qui n'a jamais existé.
Et vous voyez, je viens encore de dire mon mari. Hein.
Oui.
C'est terrible. Les gens me le font remarquer. Mmh. Ils me disent, mais tu es divorcée depuis 2010.
Oui.
Et tu dis... ton mari.
Non, c'est ça, vous n'avez pas tourné cette page.
Non.
Alors que quand vous aurez compris qu'en la tournant, vous allez pouvoir en ouvrir plein de nouvelles, ce sera quand même plus sympathique.
Bien sûr, vous avez raison. Bien sûr.
Et une fois de plus, on sent chez vous, comme vous disiez, que ça bouge, il y a de l'énergie encore pour avancer.
Ah oui, j'ai de l'énergie.
Vous ne savez pas vers où la diriger, votre énergie, pour l'instant.
C'est vrai ça, oui.
Et je crois que tout cet amour que vous avez porté sur lui, c'est sur vous qu'il faut le porter maintenant.
Oui.
Apprenez à vous aimer vous-même déjà.
Ah, mais vous savez que je le savais, je l'aimais beaucoup plus que je ne m'aimais. Hein. Ah oui, j'aurais été capable de facilement de mourir pour lui, facilement.
Et ça s'appelle de la dépendance.
D'accord.
Donc ouais. Vraiment tout cet amour-là, prenez-le symboliquement sous la forme que vous voulez, que ce soit une grande lumière, que ce soit une étoile, ce comme vous voulez, et reportez-le sur vous.
D'accord.
Autorisez-vous ça. À vous dire que vous êtes quelqu'un d'aimable au sens premier du terme, que l'on peut aimer et qui s'aime déjà.
D'accord.
C'est quand on commence à s'aimer soi-même, on rencontre des gens qui nous aiment vraiment pour qui on est.
Bien sûr, bien sûr. Oui.
Je pense que vous avez déjà fait vraiment un bon bout de chemin et qu'il ne reste pas grand-chose, là.
Non, mais c'est bien, alors je suis contente de l'apprendre.
Il reste les deux portes à déverrouiller et ça sera autre chose qui va commencer.
D'accord.
Puis à 70 ans, aujourd'hui, on est encore jeune, on a encore plein de choses à vivre. Et plein de belles choses
justement,
à vivre.
Oui, justement, vous croyez que ce n'est pas trop tard?
On ne sait jamais trop tard.
C'est jamais trop tard.
Non.
Ouais.
Non, les générations d'avant étaient plus vieilles, évidemment. Dès 40-50 ans, on était considérés comme vieux.
Ah oui.
Mais plus maintenant.
Ah oui.
Plus maintenant.
Plus maintenant, mais non.
À 70 ans, on a encore beaucoup de choses à vivre.
Oui. Mais vous savez, quand je pense au football, parce que j'ai été joueuse de football avant de...
Ah oui.
J'ai connu mon mari comme ça, d'ailleurs, puisqu'il était footballeur. On s'est connus dans un stade. Et j'ai l'impression qu'on me donnerait un ballon, j'ai encore envie de courir.
C'est mignon. Nadège, l'émission se termine. Je n'ai pas vu le temps passer avec vous, vous voyez. C'était bien agréable, cette conversation.
Bah écoutez, oui, c'est vrai. C'est déjà fini.
C'est déjà fini. Il me reste 30 secondes pour terminer. J'ai confiance en vous, Nadège. J'ai vraiment confiance en vous et je sais que vous allez y arriver.
Et demain,
je mets pour vous sur ma page tout ce que je vous ai dit sur le transgénérationnel, d'accord?
D'accord. Merci beaucoup, Sabine.
Merci à vous d'être confiante. Je vous embrasse très fort.
Au revoir, moi aussi. Au revoir.
Au revoir, Nadège. C'est terminé pour ce soir. Il est l'heure de refermer la page, justement, de cette émission. Et je vous laisse avec la phrase du jour. C'est triste de mettre un point final à certains chapitres de notre vie, n'est-ce pas, Nadège? Mais si nous ne le faisons pas, nous ne pouvons pas écrire de nouvelles histoires bien meilleures. Je vous souhaite une belle nuit. Je vous retrouve demain soir à 23h sur Europe 1. Je vous embrasse. 1h du matin, c'est le début des programmes de la nuit.